Maman Africa. J'ai toujours rêvé de voir tes enfants unis. Oui, j'ai toujours rêvé de voir les enfants de la diaspora épanouis. Mais aujourd'hui, quand je vois Maman Africa, je me dis, si le rêve est encore permis. Maman Africa déchirée par l'esclavage. Maman Africa dépouillée par la colonisation. Maman Africa endettée par le FMI et la Banque mondiale. Maman Africa divisée par l'idiotie de ses dictateurs et l'hypocrisie de l'Occident face à ses maux. À l'horizon, espoir, car la conscience internationale africaine a semé ses graines dans la souffrance, la frustration et l'humiliation de tes enfants. Marcos Garvey l'avait prédit, Malcolm X en a consacré sa vie, Thomas Sankara contre l'oubli. Génération sacrifiée, génération charnière, l'heure de la rédemption a sonné. Enfant de la diaspora, Maman Africa t'appelle. C'est le souffle de tes ancêtres. Parqués dans les ghettos, ils t'ont servi la culture de l'arrogance et de l'extravagance, la culture de l'apparat et du matu. Et tu te loignes des chemins de l'humilité nécessaire pour acquérir le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. Et te voilà dépouillé de la seule âme qui peut te libérer de tes chaînes. Maman Africa. Harlem. Parcelle. Sarcelles, même donne. Poissa, quartier nord, même donne. Trèchetown, Trècheville, même donne. Jeune du ghetto, réapproprie-toi l'éducation et marche le chemin de ta liberté. Parce que seul toi pourras te libérer de tes chaînes. Bronx, Watts, même combat. Gorée, Tatiré, même combat. Soweto, Bobo Hill, même combat. Yopougon, Dillon, même combat. African diaspora, même combat. Maman Africa.
Maman Africa. Maman Africa.
Maman Africa.
Maman Africa. Maman Africa.
Africa.
Oh, Mama Africa. Mama Africa.
Mama Africa.
Mama Africa. Mama Africa.
Mama Africa.
See, girl, begin to go up and down. No more you say, Rari. You got my patient as come, so that it go tell you a story. Girl, begin up ever is small. No go get me on respect. Me and you no go able pay them
for the one with them on me.
So do your mind the words
and know what you for say.
Do your mind the action
and know what you for do.
Madam, waiting on your name.
Name them Sunita.
Okay, I want for talk with you.
No problem.
I've been seeing you they go up and down. Waiting on your mission. You go school.
Oh yes, but really I know go far.
Waiting make you not continue. call you young too.
My long story, uncle, really a photo.
I really want for no, because myself get your picky.
My long story, uncle, it's too sorry, oh.
I like you long like monkey bridge, tell me you never know.
Me mama died the same day we born me. Me love you, papa, now you no more been to take care. Get much, but I know I'm to sleep hungry. A struggle for me, cause he say I lambo. Man can predict well, well.
But God, I get the final say.
Now, hello, madam.
You not continue, just left it so.
It's so sorry, uncle. I know I'm for member.
Tell me soon it's time. Cause I really want to know.
I lost me daddy by the rebel war. Rebel they attack the village. I in their hold me. No one for kill me. Go me daddy tower. He say no. Because the tower not before me. They be the torturer. Waiting I be take it. So take the broken teeth. When they no say me daddy left me so much, now that's make their heart run. Dengue and the gun now, they say, well, you kill you begin. Where daddy turn, watch me, what I run, I no be a boss cry, for me loving papa.
Bonjour, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur Radio Galère 88.4, mes cases de la bande FM sur Marseille. Quelques petits retards et des détails, voyez, rendre hommage à Étienne Bassiste de l'émission Tuons la chasse. Quelle transition, mais cette musique, c'est justement pour faire taire les armes. On accuse les Américains, les Européens de nous vendre les armes. À quel moment aussi vous invite de faire taire les armes? Le présent sort du passé et puis ce grand voyage de Aladji Moussa, notre chroniqueur. Il revient bien sûr au Belkaï dans notre cité Fosène, la cité populaire Marseille. Marseille, bon vivre ensemble. Et oui, Aladji Moussa, présentement incontournable, notre vedette, notre chroniqueuse. Ils l'appellent sa grande gueule, mais c'est une rebelle hors pair. Elle s'appelle Ben Mohamed Kauter, pour les intimes bien sûr, c'est Kauter avec un vrai K. Le pardon et devient l'erreur humaine. C'est sur Radio Galère 04 91 08 28 10. Probablement nous aurons aussi le producteur, le vice, donc vice-président de l'association sportive Belle des Mers Joliette, Kamad, intitulé donc alias Mamadou Konaté. L'auteur de l'organisation donc, du tournoi hommage à la mémoire de Feu Papa Diouf. Je vous rappelle bien sûr qu'Auteur, c'était aussi un ami très 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 proche à Feu Papa Diouf. Nous tous on l'a repris cette chanson. Cette chanson nous rappelle toujours aussi des merveilles qui nous rappellent toujours ce authentique. On appelle ça Tchossan aussi. Dans cette musique, quand vous écoutez, s'il s'agit franchement de le traduire, c'est pour vous dire tout simplement arrêtez les armes en Afrique. Qui se ressemble, se rassemble.
Excuse me, madame. Waiting on your name. Okay, I want to talk with you.
No problem.
Have you seen your devil up and down?
Merci Michel Polo, Poto plutôt, un avocat hors pair, notre avocat d'Antoine Bell, de Marcel Desailly et de Feu Pape Diouf. Une invitation qui m'a été vraiment honorée donc, ce samedi matin avant de rejoindre deux matchs, c'est des matchs championnats donc à Aubagne. Il est président aussi des arènes de la boxe.
Bye.
Cauter nous expliquera justement quelle est la suite de ce dossier. Donc, ce drame méga honte pour la ville et ceux qui n'ont pas pu soutenir donc la rue d'Aubagne, qui était vraiment le siècle de rappel et l'arnaque du siècle aussi, puisqu'on parlera aussi du Covid, parce qu'elle se mobilisait, elle était dans tous les fronts, beaucoup sont morts, elle est encore là. Nous le souhaitons vitalité, santé l'oblige.
Just let it so.
It's so sorry, Uncle. No one for member.
Oui, Alhaji Moussa, avant d'aller aussi très loin, nous allons se dire bonjour. Le bonjour, c'est le plus important. Ça ouvre pas mal, beaucoup de choses à la fois. Et oui, quel que soit qu'il neige, qu'il froid, qu'il vente, et tu es encore toujours là. Les voyages t'interpellent, mais la cité ne te recommande et on appelle ça, donc on te tue tellement, tu meurs pas. Tu es encore nous. Bonjour, Alhaji Moussa.
Bonjour, Mamadou. Bonjour, chères auditrices et auditeurs de Radio Galère. Il est 13h28 sur les pendules de Radio Galère. En ce dimanche ensoleillé, il fait beau dans notre belle ville de Marseille. Il faut aimer, il faut sortir, profiter du soleil. Quand je rentrais, j'ai pris un petit direct où je vois les gens assis sur les terrasses en train de manger, en train de boire leur café, en
leur
train
petit déjeuner.
Ça veut dire qu'il fait beau. Et Mamadou, je peux pas ne pas vous dire que nous avons dans les murs de notre cité une championne de la solidarité qu'on appelle Antambou. Antambou, tout le Sénégal le connaît. C'est la femme qui a créé l'Empire des Enfants. L'Empire des Enfants est devenu célèbre au Sénégal. Elle vivait ici en France depuis 23 ans qu'elle est rentrée au bercail et s'occupe des enfants de la rue. Elle est là à Marseille. Aujourd'hui, il y a une exposition qui aura lieu à Conbred, 15 rue des Trois Rois à la Plaine. 15 rue des Trois Rois à la Plaine. Antambou, les champions de leur propre vie. Une exposition qui sera dédiée aux enfants de la rue. Donc, si vous avez le temps, allez à la Plaine. C'est de 13h à 18h à Conbred, 15 rue Trois Rois, dans le 6e arrondissement. Anta, elle va intervenir à la radio en cours d'émission. Anta, qu'on ne présente plus. Et puis, Mamadou, il y a l'actualité sportive qu'on va aborder, les souvenirs, bis repetita, la France contre le Sénégal au Mondial.
Le coq et le lion.
Tout le monde se souvient de cette victoire du Sénégal à l'ouverture du Mondial 2002 en Corée du Sud. La France, qui était championne du monde en titre, est venu se faire battre par le petit poussé. Le lion du Sénégal avait bouffé le coq, 1-0. C'était à 23 ans. Et là encore, aux États-Unis, à New York, rebolote. Sénégal, France, et on va passer par là où on était passé, il y a 24 ans, même scénario. Victoire pour le Sénégal, mais nous sommes partagés, nous sommes des ambivalents, nous sommes pour la France et pour le Sénégal, mais France-Sénégal, le cœur balance pour le Sénégal, on en parlera.
Merci beaucoup, on arrivera dans ce chronique. Oui, alors bonjour Cautier.
Bonjour les garçons.
Oh, quelle belle voix qui reviennent de loin, hein, n'est-ce
et
pas
tous de loin.
Et nous remercions au plateau du Sénégal qui t'interviewe souvent, Lamine.
C'est ce que j'allais vous remercier à tous, Lamine, vous, parce que depuis le départ, c'est vrai que moi je mène les luttes sur le front, que je prends les coups et je les prends volontiers pour le bien commun et pour ceux qui sont le plus méprisés dans notre ville et ailleurs. Mais ce travail, je le mène aussi parce que des personnes comme vous, très engagées dans leur métier, dans leur travail et dans la vie, me donnent la parole régulièrement et permettent de faire un vrai travail de suivi sur l'évolution ou non de la situation des Marseillais et de la situation des tragédies, bien sûr, dans le reste du monde. Donc, merci à vous deux.
On ne peut que vous remercier encore. Alors, méga honte pour la ville, méga honte par le silence, méga honte par l'absence. Je pense que quelques élus ont été condamnés. Mais là où vous avez été remarquable, même pendant que vous êtes au lit, vous êtes encore là pour dénoncer, soulever l'injustice totale dans notre cité. Et pourtant, cette cité, c'était l'histoire chargée d'histoire, Marseille. Et c'est là où est parti le bon départ de l'hymne de la France. Et c'est là aussi tous les tirailleurs tunisiens que vous êtes, algériens que vous êtes, sénégalais que vous êtes, et madagascar que vous êtes. Le monde était mobilisé pour venir en aide à l'Europe en elle-même, même pas à la France, parce qu'au-delà, la guerre s'étendait. On n'éteint jamais le feu à l'arrivée, c'est au départ. Et aujourd'hui, je vous dis encore merci parce que vous avez eu une grande épreuve dans cette cité. Vous avez eu vraiment des coups. On vous a craché dessus. Vous avez, aujourd'hui, tout le monde vous aime maintenant parce que trop parler pour tuer. Mais vous avez gagné sur un terrain parce que l'ennemi pire de l'homme, c'est la peur. Parce que si vous avez peur d'affronter, le racisme, c'est la méconnaissance totale. Parce que la méconnaissance est le plus grand drame. Le racisme, franchement, c'est une méconnaissance. C'est l'incommunicabilité entre les êtres. Aujourd'hui, on commence à vous comprendre.
On commence à peine parce que malheureusement, on revient de très loin. Et le racisme, parce qu'on m'a interpellé sur cette question qui est essentielle, en particulier dans cette période préélectorale, où les racismes et les extrêmes montent de toutes parts et dans toute l'Europe, le racisme n'est synonyme que d'ignorance et de peur. Parce que les gens qui sont racistes sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils jugent, et qu'ils ont peur de personnes et de cultures qu'ils ne connaissent pas, mais qui font partie intégrante, moi je le rappelle à chaque fois, de la culture de la France. La France est un pays cosmopolite, et sans la contribution des tirailleurs, qu'ils soient tunisiens, algériens, sénégalais, maliens, venus de toute l'Afrique, peut-être qu'aujourd'hui la France ne serait pas la France, et qu'elle serait juste un département allemand.
Et à la reconnaissance de certaines politiques.
Et que nous parlerions tous allemand aujourd'hui. Il ne faut jamais oublier que la France a été elle aussi colonisée, comme l'est la Palestine encore aujourd'hui. C'est le dernier grand pays qui est colonisé. Et nous avons un devoir moral de mémoire, quand on est un enfant de l'immigration postcoloniale, bien sûr, mais en tant qu'être humain tout court, de toujours lutter contre toutes les injustices et contre toute forme de colonisation. La Palestine, puisque vous me lancez sur ce sujet, est colonisée physiquement et économiquement, mais l'Afrique, elle, est encore colonisée
idéologiquement,
et elle est encore, après 50 ans de soi-disant indépendance, sous le franc CFA, qui empêche tout développement et toute pérennité économique et politique sur ce territoire qui est pour moi le plus grand et le plus riche de notre pays, pas que pour moi d'ailleurs, c'est le plus grand et le plus riche de notre galaxie. Pardon.
Comment peut-on avancer sans qu'on ait notre monnaie, l'indépendance monétaire ?
Il est nécessaire que les gens, et que notamment ceux qui gouvernent ici et ailleurs, sachent que nous savons que nous ne sommes plus à l'époque de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents, où la connaissance et le sachant, ce n'était pas nous. Nous savons, nous sommes aujourd'hui structurés, nous sommes des Français à part entière, mais... Pour autant, nous restons attachés et très attachés au pays de nos ancêtres, à nos racines, parce que vous savez, un arbre, peu importe son développement, peu importe le nombre de branches, peu importe le développement de ses branches, un arbre sans racine est un arbre qui est mort. Et nous sommes vivants parce que nous connaissons nos racines et nos racines sont africaines.
Tout à fait. Alors, parlez-nous, avant d'arriver à votre livre, cette plume qui mérite franchement d'être dans toutes les composants, donc pour les éditeurs. C'est le drame de la rue d'Aubagne que vous avez, on dirait presque que c'est vous qui étiez touché ce drame. Ainsi, vous avez été pilote de certaines personnes, de certaines familles qui ne savaient ni écrire. Et vous prenez les dossiers, vous les écoutez, vous prêtez l'oreille. Et pourtant, c'est la place des politiques de venir en aide à cette population parce qu'ils contribuent beaucoup à l'économie de la France, l'économie de Marseille. Parlez-nous de ce drame. Comment vous en êtes sorti? Est-ce que c'est absolument, on a fermé ce dossier, ou bien encore le combat continue et que la justice encore, vous avez gagné peut-être une partie, mais le combat continue.
Le combat continue et le combat ne sera pas terminé avant au moins 50 ans, si nous avons à terme, et j'espère à la prochaine mandature municipale,
réparation.
Peut-être. Non, pas réparation. Avant la réparation, il y a quand même... En 2015, le rapport Nicole, donc M. Nicole est un expert, on va dire ça comme ça, qui a été mandaté par le président Hollande à l'époque pour faire une expertise sur l'état du logement en centre-ville à Marseille du vieux bâti. Donc en 2015, M. Nicole a rendu un rapport qui spécifiait que 100 000 Marseillais, soit 10% de la population, vivaient dans 40 000 logements insalubres. Parce que ça, c'est une étude qui est portée uniquement sur le centre-ville et sur le vieux. On ne rentre pas encore dans les cités, dans les quartiers, dans la périphérie et chez les bailleurs sociaux. Et rien n'a été fait de manière très ambitieuse, très ambitieuse pour tous les secteurs de la ville sur ce secteur-là. Malheureusement, en 2018, trois ans après, la ville a été endeuillée et elle est endeuillée pour l'éternité avec cet effondrement, ce double effondrement du 63 et 65 rue d'Aubagne, qui ont entraîné dans leur chute le 67 et une partie du 69 rue d'Aubagne, il faut le rappeler. Il y a eu 8 morts. La ville ne se remettra jamais de ces 8 morts. Nous n'oublierons jamais. Donc, au-delà du procès qui s'est tenu de manière exemplaire, il a commencé le 7 novembre 2018, s'est terminé le 18 décembre 2018, pardon, entre le 7 novembre et le 18 novembre 2024, et le délibéré a été rendu, on en parlera tout à l'heure de manière plus précise, le 7 juillet dernier. Ils ont tous été condamnés, enfin, 15 personnes sur 16 ont été condamnées. Et ce qui est important de dire, c'est que c'est la première fois que toute la chaîne de responsabilité, propriétaire, expert judiciaire, Monsieur Cachard, qui était à la fois, lui, c'est le jackpot, parce qu'il était élu au conseil régional sur la liste LR, avocat du syndic, membre du syndic, avocat en droit d'immobilier, rappelons-le, et en plus propriétaire d'un immeuble qui s'est effondré en 65, donc qui cochait toutes les cases, ainsi que Monsieur Ruas, qui était adjoint à la sécurité à l'époque. Ils ont tous été condamnés par la justice à des condamnations qui peuvent nous sembler, nous, comme des mortels, dérisoires, parce que c'était de la prison sous bracelet chez eux. Donc ils ont été condamnés de manière ferme, mais sous bracelet électronique chez eux. Alors c'est vrai que j'ai été la première à être en colère en disant « Je veux que ces gens coupables, reconnus coupables par la justice, dans un procès, goûtent à l'indignité de la prison, etc. » Sauf que ça, c'est la réaction à chaud. Et après, quand on réfléchit, c'est la première fois que ces cols blancs, ça s'est arrêté, que ces cols blancs sont mis sur le banc des accusés. Donc c'était déjà une première victoire, et il faut saluer le courage des juges et le courage de ceux qui ont fait des études, notamment les deux experts de Paris, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, qui ont mené et qui nous ont présenté des débats d'une qualité et d'une technicité exceptionnelle. Ça, c'est le premier salut. Et ensuite, ces gens, au-delà de la honte d'avoir été traduits devant la justice et d'avoir été convoqués devant la justice, et d'ailleurs très peu étaient là tous les jours pour affronter les juges et les familles et ceux qui étaient témoins, comme moi d'ailleurs au demeurant, donc, très peu de personnes étaient là tous les jours. Ils ne venaient que lorsqu'ils étaient convoqués eux-mêmes à répondre aux questions des juges et du tribunal, tout simplement. Ils ont été condamnés à des peines qui nous semblent à nous symboliques, mais ils ont été condamnés et pour la plupart interdits d'exercer dans le domaine de l'immobilier au niveau local et au niveau national. Donc, en fait, on ne se rend pas compte que pour ces cols blancs, c'est une honte internationale. Et c'est pour ça que même s'ils ont été condamnés à faire de la prison sous bracelet chez eux, dans leur villa ou dans leur appartement confortable, exactement, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leur barbecue, etc. Donc on ne comprenait pas nous comment ils puissent faire appel de ça. C'est une condamnation. C'est une reconnaissance publique, locale et nationale de leur défaillance et de leur culpabilité. Et pour des cols blancs, on s'en rend compte aujourd'hui, c'est quelque chose d'intolérable et d'inacceptable, alors que leur culpabilité est avérée après un procès et une instruction de 7 ans. Donc là, il y a eu appel. Il y a eu appel, pour être honnête, d'une partie des condamnés, mais aussi du parquet, donc le parquet de Marseille, par la voix du procureur, et notamment du procureur Besson, que je salue pour son travail exceptionnel sur ce dossier. Il y a eu appel parce que même le parquet ne comprend pas que les condamnations ne soient pas plus lourdes. Donc, vous voyez, une incompréhension générale, mais il faut quand même se féliciter. Vous savez, moi, j'ai pour philosophie, c'est pour ça que je tiens peut-être, mon cher Mamadou, c'est que quand on a un verre d'eau et qu'il est à moitié, on vient dire « Oh, il est à moitié vide ». Moi, ma philosophie de vie, c'est de voir qu'il est à moitié plein, qu'on a déjà rempli tout ça et qu'il faut continuer à travailler de manière individuelle et collective pour le remplir comme il se doit. Et donc, si vous voulez, soit on fait une dépression collective en disant « Ils ne font pas de la prison et on n'avance pas », soit on se dit « Pour la première fois, ils ont été mis sur le banc des accusés, ils ont été inculpés, ils étaient sur le banc non pas des témoins, non pas des spectateurs, mais des coupables potentiels, même si notre justice les présume. »
C'est un grand pas.
C'est un grand pas. Et ensuite, ils ont été reconnus coupables. C'est important.
C'est un grand pas.
Et ça, c'est le début de la force qui était nécessaire aux gens qui sont, comme moi, engagés, et surtout à tous ces milliers de Marseillais qui sont méprisés dans leur logement et qui sont victimes de périls structurels et sanitaires, même si là il s'agissait de périls structurels, pour amorcer le combat, pour exiger de nos autorités, mais aussi des premiers responsables, des propriétaires, des syndics de copropriété, des experts qu'ils fassent leur travail tous correctement pour que chaque famille, chaque femme, chaque homme, chaque retraité, chaque enfant puisse être respecté dans son domicile et vivre dans des conditions humainement dignes.
Alors, si on parle de l'actualité, finalement, la rue d'Aubagne, quelle est la suite Quelle est la suite de tout cela?
À quel niveau?
D'abord, les relogements de ces... Parce qu'il y avait quand même des gens qui étaient relogés dans les hôtels, qui ont demandé à ces rescapés de payer la note.
Oui, alors, si vous me lancez sur ça, on a eu une réunion le 3 là, avec la mairie. Et comme d'habitude, je suis celle qui est le moins d'accord avec les autorités, même si on a une mairie de gauche aujourd'hui, parce qu'ils se gargarisent tous de faire, mais leur temporalité politique n'est pas la temporalité des personnes qui sont méprisées, en fait, et qui sont en danger dans leur logement. Et donc, forcément, moi, je suis très exigeante sur ce dossier, y compris, et en particulier, post-Trudeau Bagne. Et je veux rappeler aux gens qui ne me connaissent pas que, il faut lire mon livre, hein. Il faut lire mon livre pour savoir de quoi on parle, puisque j'explique ce que je fais. C'est un récit, en fait, en donnant la parole aussi à des familles que j'ai accompagnées. J'en ai choisi 5, très différentes, pour montrer qu'en fait, tout le monde peut être touché par ça, peu importe la nationalité, l'origine, papier, sans papier.
Nul ne sait comment on finit dans la vie.
Exactement. Personne n'est à l'abri d'un accident de parcours et personne n'est à l'abri de rien, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des personnes qui ont été relogées, mais je tiens à préciser, et je vais la citer, Madame Assia, qui habitait à la place des Moulins. Une femme qui était à l'époque âgée de 34 ans, qui est née au Panier, qui a grandi au Panier, comme elle disait, elle côtoyait les touristes toute la journée, parce que c'est une place très touristique du Panier. Mère de 2 enfants, en 2023, âgée respectivement de 8 ans et 15 ans. A été expulsée par la mairie pour cause de péril. Et vu que son propriétaire est quelqu'un de très connu par la mairie, parce que c'est un ami de la mairie, c'est quelqu'un qui a écrit, je ne dévoile pas encore son identité parce que la procédure est en cours, on devrait avoir le jugement dans pas longtemps. Mais après, je dévoilerai parce que je trouve ça tellement malhonnête. Ce monsieur qui connaît la cause du mal logement, qui est soi-disant engagé, je dis bien soi-disant, parce que quand on est engagé, on ne fait pas ce que je vais vous expliquer. Et ça date de 2023. C'est l'un des derniers gros dossiers dont je m'occupe. Donc cette dame a été mise à la rue parce que la mairie lui a proposé, enfin le propriétaire lui a proposé sous couvert de la mairie, d'habiter à Félix Piat ou au boulevard Odo. Il n'y a aucune maman célibataire ou aucun couple lorsqu'il habite à la place des Moulins qui veut aller habiter à Félix Piat au pied d'un endroit qui est complètement gangréné par la drogue et où les dealers ont menacé la famille lors de la visite, ou au boulevard Odo. Et d'autant qu'au niveau de la loi, le propriétaire a l'obligation de proposer un appartement, un logement, qui est à un quart d'heure à pied. Vous savez, quand on habite à la place du Moulin, Félix Piat, ce n'est pas un quart d'heure à pied et en transport. Et donc, je me suis disputée avec le directeur de la ville de Marseille, Florent Houdemont, que je peux citer pour le coup, parce qu'il me dit que c'était à un quart d'heure. Oui, un quart d'heure à vol d'oiseau, sauf que les êtres humains, ce n'est pas des oiseaux. Ils sont obligés de descendre à pied. Parce que descendre à pied de la place du Moulin jusqu'à la Joliette, déjà pour prendre le métro, ça prend déjà 10 minutes.
Tout à fait. Bon. Tout à fait.
Et donc, si vous voulez,
surtout le transport à Marseille.
Exactement, parce que les transports, on pourra en parler avec Mme Vassal, vu qu'elle est candidate. Je proposerais que ces candidats n'aient plus droit à de voitures personnelles ni à des chauffeurs, qu'ils prennent les transports en commun. Vous verrez que tout de suite, on aura des transports en commun via.
Tout à fait.
Parce que c'est vraiment un mépris absolu, et y compris un empêchement pour les élèves.
Quand on demande les citoyens.
Excusez-moi, je mélange tout là.
Tout
parce
à fait,
que
non, tu ne mélanges pas.
En fait, le transport, etc. Je suis désolée, je ne vois pas comment les gens peuvent avoir accès à l'école, à la formation, au travail, quand à 21h30, 22h, il n'y a plus de métro. Vous savez, moi j'ai accompagné, parce que j'ai été très touchée, enfin j'ai accompagné, j'ai été présente pour la famille Kessassi, lors du drame de cet enfant qui a été assassiné il y a maintenant un peu plus de 15 jours. Et donc, moi, je rentre en métro. Et donc, quand je partais de Saint-Just en métro, vu que je prenais le dernier métro, à Saint-Charles, il n'y avait pas d'autre métro. Donc, soit je descendais à pied jusque chez moi, soit je m'arrêtais avant, au 5 avenue, au Réformé, pour prendre le tramway, attendre en pleine nuit à 22h, parce qu'il n'y a pas d'autre métro. Mais c'est la honte absolue. Je raconte toujours une anecdote. Quand je travaillais au Grand Gueule à Paris...
Par la politique des villes.
Tout à fait. On est la deuxième ville de France, quand même. Donc, mon fils, un jour, on rate... Je crois qu'il est... minuit et demi, et on va à mon hôtel et on rate, il a été âgé de, je sais pas, 11 ans à l'époque, on rate le métro à Paris. Et il va pour courir, le premier, il me dit, ah, viens, on court. Je dis, non, ne cours pas. Il me dit, ah, on va le rater, c'est pas grave. Et en fait, le temps de descendre les escaliers tranquillement avec nos valises, un autre métro est arrivé. Il était pas loin de minuit, 23h et quelques, et il y a un métro toutes les 3 à 5 minutes à Paris.
Inchallah.
Alors que moi, il m'est arrivé de rater ici mon train, j'habite à 2 stations de métro, de la gare Saint-Charles, j'habite à la Joliette, donc j'ai Joliette, Jules-Guez, Saint-Charles, et j'ai déjà raté mon train, parce que je pars toujours au dernier moment, et ça c'est des fois une qualité à la fois, et j'ai raté mon train parce que j'ai raté le métro, c'est une honte, et quand vous appelez un Uber, il avait 17 minutes pour venir, donc c'est pareil, et donc on est dans une ville où il y a aujourd'hui 1 million d'habitants déclarés, on compte pas les sans-papiers, les migrants, les ci, les ça, on compte pas l'énorme vague touristique, puisqu'aujourd'hui, eh bien, on est fréquenté toute l'année et pas seulement qu'en été. On a les croisiéristes, on a le train, on a le TGV, on a les Bordelais, on a les Parisiennes toute l'année. Donc, c'est très bien, c'est une manne économique pour la ville, etc., etc. Mais comment ils se déplacent, les gens ? Et on oublie que Marseille est devenue, merci la vie, merci Dieu et merci notre patrimoine naturel, est devenue la capitale des tournages cinématographiques et
tout
de séries.
Fait.
Et donc on a des gens, en plus des 1 million d'habitants, à l'année chez nous, pour travailler, pour créer de l'emploi, pour venir créer de l'économie par rapport au tourisme concernant le tourisme à l'année, et tout ce qui concerne le tournage d'un film, c'est-à-dire les hôtels, les prestataires de services, les maquilleurs, la restauration, etc. etc. Et on n'est pas capable de faire déplacer des gens correctement dans la deuxième ville de France. Donc moi, je veux bien que les gens se présentent, mais ils devraient être dans l'obligation de présenter un bilan, et un bilan effectif de leur action, parce qu'ils sont tous élus depuis au moins une quinzaine d'années, de Madame Vassal à Monsieur Payan. Alors le FN, on n'en parle pas parce que moi, il devrait être hors ligne, parce que quand on prône la haine de l'autre, on ne devrait pas avoir le droit de partir tout court.
Les Français contre les Français.
Voilà. Et Monsieur Deloglu, bon, j'ai de la sympathie pour lui humainement, mais excusez-moi, Monsieur Deloglu, même s'il a été élu député, mais sur du pathos et sur de l'émotionnel au lieu d'action concrète, excusez-moi, mais c'est comme si moi, Kaouter Ben Mohamed, je disais demain à Thomas Pesquet, mon petit Omar, entre chez toi, c'est moi qui vais aller sur la Lune en termes de compétences. Il est gentil, Sébastien, mais il n'a pas les compétences aujourd'hui d'accéder à la mairie et de gérer une ville comme Marseille. Donc si vous voulez, nous, habitants, on est un peu désespérés, et en particulier les habitants comme moi qui sont à la tête d'associations, de collectifs ou de rien du tout, parce qu'il y a plein de gens qui sont actifs dans l'ombre, mais qui sont à la tête de rien, qui nous battons à l'année pour améliorer les conditions de vie des enfants dans les écoles, l'accès à la culture, l'accès à la musique, l'accès au sport, l'accès au transport, l'accès à la dignité, éradiquer les punaises de lit, les rats qui montent sur les enfants, enfin carrément, hein, qui vous foncent dessus aujourd'hui, ils ont plus peur alors qu'ils ont la taille d'un chat. Et on voit des candidats qui sont là, qui se gargarisent, qui sont jamais sur les territoires, qui viennent toujours faire un sel. Vous savez, symboliquement, ce que je vais dire, c'est très fort. Lors du rassemblement en hommage à Mehdi Kessassi, un soutien à sa famille, le 22 novembre, il y a eu 6200 personnes. Allah yarhamou, paix à son âme. Nous avons vu défiler tous les élus et responsables politiques du local et du national.
Chacun va chapeauter.
Il y a Olbrand Pivet, monsieur, comment il s'appelle, Éric Dupond-Moretti, tous les élus de la France insoumise, locale, nationale, il y a El Garrigo,
presque.
Payan, tout le monde était là.
Chacun vous impressionnait.
Samedi. D'accord, mais moi je veux bien. Madame Sabrissi-Roubache qui fait son mannequin avec ses cheveux, mais on en a rien à foutre, qui parle de choses qu'elle ne maîtrise pas. Et quand je l'ai interpellée publiquement devant les caméras sur l'inaction de l'État, l'inaction de l'État concernant la prévention, l'accompagnement des jeunes, leur dire que c'est dangereux de consommer de la drogue, leur dire que c'est dangereux d'en vendre, etc. Excusez-moi. Zéro réponse, parce qu'elle a été interpellée de manière un peu, un peu mouvementée.
Il ne s'attendait pas.
Mais excusez-moi, c'est normal d'être interpellée de manière mouvementée lors d'un drame comme celui-ci. Mais il faut être en capacité, quand on est responsable politique, de ne pas se démonter, comme on dit à Marseille, d'être courageux et courageuse, et de répondre aux citoyens qui nous interpellent, peu importe la manière dont ils nous interpellent. C'est ça, un responsable politique. Ça doit avoir du courage, du contenu et des choses à dire aux citoyens et des actions à proposer et à mettre en place.
En tout cas, tu as notre soutien.
Non, mais merci. Et si tu veux, bon, on va se tutoyer parce qu'on se connaît dans la vraie vie quand même. Et si tu veux, Mamadou, ce qui est extrêmement frustrant, c'est que ces gens ne mettent rien en place. Ils sont venus défiler, ils se sont permis de prendre la parole dans un moment qui était d'une douleur absolue pour tous les Marseillais. Ils se sont permis, moi j'ai été absolument scandalisée que Madame Roubache se mette devant Emine Kessassi. Emine aurait dû être à côté de sa mère, à côté de sa famille, à côté de ses proches, et on voyait les politiques devant et Emine derrière. Mais c'est d'une indécence absolue. Un, ça n'était pas votre place. Deux, il ne fallait pas prendre la parole. Et quand vous l'avez prise et que vous êtes interpellé, aussi bien de manière structurée de ma part ou de manière un peu mouvementée de la part de Mourad, qui est un responsable, enfin, quelqu'un de professionnel qui bosse à la Sécu, etc., etc. J'ai appris après qui c'était qui l'avait interpellé. Il faut répondre. Et symboliquement, ça c'était le samedi après-midi, en fin de journée. Mercredi soir, en plein cœur du centre-ville, à 4 minutes à pied de la gare Saint-Charles, où ils sont tous arrivés par la gare Saint-Charles, ces élus, on est d'accord. Il y a un jeune homme de 18 ans qui a été tué, qui a été assassiné dans la rue, en plein cœur du centre-ville, en fin de journée, et il a pris 4 balles dans le dos. Et là, pas de son, pas d'image, ni des élus locaux, ni des candidats à la mairie, ni des élus nationaux. Et pour rajouter du drame au drame, excusez-moi, 48 heures après cet assassinat, cet énième assassinat, un enfant de 15 ans scolarisé au collège, qui a priori et éloigné
et qui est le même collège de mon neveu.
Voilà.
Et même et qu'il n'avait rien à voir en plus avec ses
jeux. Même si, je vais aller plus loin. Et même s'il avait à voir, quoi, je veux dire, à 15 ans, on est victime de cette réalité. On n'est pas, quand on est, on a envie de devenir footballeur quand
tout
on a 15 ans.
On a le droit de rêver.
On a le droit de rêver. De mourir à 15 ans.
Tout à fait.
Cet enfant a été tué, il a été carbonisé à même le sol. Ça veut dire que cette fois-ci, les auteurs ne se sont même pas donné la peine de voler une voiture pour le brûler à l'intérieur, et il a été déposé en face d'une aire de jeu, lui qui était encore un enfant. C'est de l'atroce dans l'atroce, c'est de l'horreur dans l'horreur. Et encore une fois, pas de son, pas d'image, ni des élus nationaux, ni des responsables politiques nationaux, ni des coordinateurs de la France Insoumise, ni des coordinateurs de Renaissance, ni de Horizon, ni des candidats. Mais c'est scandaleux. Et donc moi, dans ces conditions, quand on parle... L'habitat, ça ne va pas à Marseille. Il y a encore tellement de milliers de familles et d'enfants qui vivent dans des conditions d'indignité, excusez-moi, qui sont encore plus graves que celles qu'on peut retrouver en Afrique.
C'est le constat.
Je suis désolée.
Le constat amer.
Je suis désolée. Marseille, et vous savez tous que je suis totalement amoureuse de ma ville. C'est avec mon fils, c'est mes deux grands amours de ma vie. Je veux dire, même si demain je rencontre un homme, je l'aimerais moins que Marseille, sans déconner. Et donc, moi, je suis... scandalisée et malheureuse. J'ai tellement de peine que cette ville qui pourrait être la capitale, qui a tout le potentiel pour être le capitale de la Méditerranée, pour ne pas dire le capitale du monde, et ça, c'est mon côté chauvin, soit méprisée à ce point et qu'aujourd'hui, ces enfants vivent dans des conditions qui sont plus graves et plus indignes que celles du tiers-monde.
Vous savez, nous sommes tous des parents. 50 ans que je vis à Marseille.
Oui.
Mais il se passe des choses dans cette cité. Est-ce que vous pensez que ce sera irréversible? Nos enfants sont rentrés dans des problèmes très graves, qui est un problème de drogue, qui est en train de gangréner la cité. Les règlements de compte n'en finissent pas et ce sont nos enfants qui s'entretuent entre eux.
Oui.
Mais qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses reviennent à la normale?
Plus jamais. L'État, plus jamais ça.
Nous sommes tous responsables.
Non, la première responsabilité, excusez-moi, là il y a une dame qui m'a dit, mon Dieu, parce que moi j'ai fait partie des personnes qui se sont éclatées de rire et qui ont été plongées dans une incompréhension absolue quand on a appris que Sabrina Agresti-Roubache, qui a quand même laissé le territoire du 11-12, qui a cédé ce territoire au Front National, alors qu'elle était la responsable du Marseille, du plan Marseille en grand, dont pour l'instant nous n'avons ni l'odeur ni la couleur, excusez-moi. Donc quand on est la copine intime de Brigitte Macron et qu'on doit sa nomination uniquement à ses compétences de la night, de faire la fête, excusez-moi, parce qu'elle n'a rien fait sur le terrain, nous ne la connaissons pas, nous acteurs de terrain sur le terrain, d'accord? Bon. Et qu'on a la carte bleue de l'Élysée, nos limites, parce que c'est de ça qu'il s'agit quand même, elle avait la black card de l'Élysée, cette dame. Et qu'avec toutes les personnes qui sont, elles, j'en suis sûre, compétentes, qui sont en off, vous voyez, avec un plan qui était écrit, elle avait tout pour faire réussir Marseille. Et elle se démerde au bout d'un an de mandat à laisser le 11-12, un territoire auquel je suis attachée avec Herbel et la vallée de Luvan. J'y ai habité très longtemps et j'y ai été travailler sur ça pendant très longtemps. Excusez-moi, quand on se démerde en ayant la carte bleue de l'Élysée sans limite à céder un an après sa première élection... le territoire qui est un des plus grands de la ville, qui était important, un des plus préservés au Front National, il y a des questions à se poser. Et moi, excusez-moi, tant qu'on aura des responsables politiques qui coopteront leur petite cour sur des critères de médiocrité et non pas sur des critères de vision et d'ambition pour le bien commun pour notre ville, sans qu'il n'y aurait pas de critères sur les compétences au pluriel qui sont absolument nécessaires et fondamentales, et surtout de courage politique et de maîtrise du territoire, tant en termes de connexion, de réalité, de misère, de violence au pluriel qui s'accumule dans certains de nos territoires et qui se délocalise. Vous savez, avant, c'était que les quartiers nord. Après, c'est devenu Félix Piat qui est aux portes des quartiers nord. Maintenant, c'est le centre-ville avec les Carmes et l'hypercentre derrière la mairie du 1-7, etc. Et petit à petit, ça se déplace et ça grignote. Parce que vous savez, le premier problème, qu'est-ce que c'est, messieurs? C'est un problème de santé publique. Il y a de plus en plus de consommateurs et de plus en plus jeunes. Et il n'y a pas que de plus en plus de consommation de drogue. Il y a aussi de consommation de drogue, ce que j'appelle licite. Il y a de plus en plus de consommation d'alcool, qui est peut-être la dépendance avec la cocaïne
qu'on
la plus lourde.
Ouais.
Et il y a aussi de plus en plus, et c'est pas moi qui le dis, ça c'est le site internet, enfin c'est les études de la sécurité sociale et de l'Institut de l'âge etc., et de la jeunesse. Excusez-moi, il y a eu ces 5 dernières années une hausse de 62% de consommation d'antidépresseurs et de psychotropes. Les gens vont mal, messieurs. Les gens vont mal dans notre pays, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Et pour ceux qui travaillent, les cadres sup, y compris peut-être dans le monde de la politique, parce que l'actualité nous a montré malheureusement qu'il y avait certains qui se droguaient au sein même de l'Assemblée. Parce qu'on nous demande toujours plus, dans un thème plus restreint, en étant payé moins, etc., etc., il y a aussi des gens qui, sous la pression, il n'y a pas que de la consommation festive, commencent à se prendre un rail de coke, un ci, un ça, et qu'après ils en dépendent. Et donc notre société va mal. Et donc moi j'appelle de tous mes voeux depuis 1995-96, date à laquelle je suis devenue travailleuse sociale en même temps que je faisais mes études de sociologie à Aix. Nous avons vu, vous savez, quand j'étais petite moi, je vais la citer, Aziza, une amie d'enfance, avait son grand frère qui se droguait, qui prenait des piqûres d'héroïne, etc. Et à l'époque, c'était en 1990, c'était la honte de se droguer. Et les gens, c'est pas vrai, les gens ne se droguaient pas dans les cités, dans les quartiers populaires, parce que c'était la honte. Les gens allaient se servir dans les quartiers sud et dans le centre-ville, et ils consommaient, d'ailleurs le QG ça reste encore aujourd'hui malheureusement, la place des Danaïdes réformés. Et le frère de mon ami est mort sur un banc, tout seul, suite à une overdose sur les réformés. J'avais 13 ans. D'accord ? Et c'était, on avait honte de dire que nos enfants consommaient, on avait honte de dire que nos enfants, enfin c'était pas des enfants d'ailleurs qui vendaient à l'époque, c'était des mecs un peu bourges, etc., etc. Et c'était quelque chose qui était réservé aux fêtards, à la night, au showbiz. Et nous, éducateurs spécialisés, on a constaté l'apparition de jeunes qui fumaient du shit, donc déjà c'était très choquant à l'époque, et je vous parle de ça, il y a 29-30 ans en arrière. Et donc nous avons alerté les pouvoirs publics, les pouvoirs locaux, à l'époque ça s'appelait le DSU, Développement Social Urbain, les VVV, Ville Vacances, et on a alerté tout le monde. Et en fait, comme réponse, on a eu des coupes budgétaires, des renvois. Et après, pour nous, le coup de grâce final, le coup de sabre a été le fait que M. Sarkozy, ministre de l'Intérieur à l'époque, annule carrément, enfin, retire la police de proximité. Ça a été le coup de grâce, ça.
On a vu beaucoup d'associations ont été victimes. En tout cas, ma très chère Kauter, pour les intimes, s'il fallait faire ce débat question-réponse, on aura largement, je pense qu'on fera ça prochainement.
Oui.
Nous avons eu la chance de te rencontrer à nouveau, grâce à Maya qui est la sirène de l'océan Indien, mais particulièrement, elle est tunisienne aussi. Et donc, son fils évolue aussi à ce grand deuxième club de Marseille. Et qu'elle restera, qu'elle perdure, parce qu'il a un talent fou avec mon fils. Et donc cet échange, on a eu la chance de rencontrer aussi Kamad, qui en plus habite au pied de donc du stade, et donc il était l'organisateur à la mémoire de cette journée donc dédiée au sport, à la jeunesse, mais plutôt à feu Pape Diouf. Et vous étiez surpris réellement que ce tournoi a eu lieu. De votre absence vous a énormément interpellé. Du moins, si vous auriez dû être invité. Mais le problème, c'est que c'est un jeune, c'est une première édition. Il connaissait personne. Bon, parce que il a une entreprise aussi, c'est le graphique, donc celui qui fait le flocage pour les maillots, pour nos pays respectifs, etc. Donc c'est une première édition. Il est vrai que cette journée donc au stade Bombardier, c'était prévu donc à Fontelieu, malheureusement quelques élus ont saboté ce rendez-vous, mais Dieu a fait qu'il y a une puisque conscience à la vie associative de la loi 1901 qui a permis vraiment d'avoir lieu cette journée. Et donc Alaï Moussa même était à nos côtés, et je remercie et rends hommage à ce jeune Ndiaye Moussa, voilà, et à d'autres jeunes, et beaucoup de clubs, beaucoup d'équipes ont répondu présents. Il y avait du fair play, il y avait l'artisanat, il y avait l'exposition, et donc le livre de Pape Diouf, ce n'est qu'un jeu, le sport, et il nous a donné du goût du sport. Mais quand même, c'est le premier président noir quand même qui a honoré, qui a laissé peut-être les portes ouvertes pour l'excellence. Et parlez-nous un peu votre relation avec notre ami intime aussi, qui est docteur aussi, puisque on a tous des docteurs, des amis communs, donc comme docteur connaît, et paix à son âme. Donc Michel Ribeirola. Alors parlez-nous un peu votre relation avec Pape Diouf, et puis vous nous parlez aussi de la marmite du cœur, ou la marmite du cœur qui nous a permis à te connaître avec une association association que tu as, que nous avons eu la chance de le connaître grâce à votre intermédiaire, et que chaque mois de Ramadan, vous avez insisté que ce soit avant, pendant, après, que les gens ne meurent plus jamais de faim ni de goûter. Voilà, ça veut dire que le goût de l'autre. Et on a eu la chance de les avoir une fois, mais pas deux. Mais vous, vous étiez quand même toujours une actrice dans cette société injuste, mais dans cette société où éventuellement le seul votre verdict, c'est le courage. Et le courage, vous l'avez. En tout cas, parlez-nous un peu de ces relations avec Pape Diouf rapidement pour qu'on parle de ton livre. Et comme on a d'autres chroniques du sport, et puisque le 20, à partir du 21 décembre, il y aura une grande rencontre des nations, donc la Coupe d'Afrique, voilà, donc qui tiendra au Maroc.
Pape Diouf, Alayat Hamou, paix à son âme, je l'ai rencontré. La première fois que je l'ai rencontré, c'est le 17 septembre 2013. C'est une date qui restera gravée parce que moi, je suis, comme je vous disais, une ex-travailleuse sociale. Et depuis 2010, malheureusement, j'ai vu des jeunes dont je m'occupais, issus de familles qui travaillaient, de papa qui était sur les chantiers, de maman qui faisait les ménages, qui était infirmière, etc., tomber dans la drogue. Avant ça, en 1995. Et petit à petit, j'ai vu ces jeunes commencer à s'entretuer. Et ça a été un grand choc pour moi. Et donc, j'ai interpellé les politiques, ils ne voulaient rien faire. Et donc, je commençais à rencontrer mes anciens collègues, parce que moi, je n'étais plus travailleuse sociale, et dire, mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on se lève, il faut qu'on monte une initiative citoyenne pour proposer quelque chose pour que ces jeunes ne meurent plus et ne s'entretuent plus. Moi, le départ de mon engagement politique aux côtés de Pape Diouf, c'est ces jeunes qui s'entretuent parce que ça me traumatise. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait, et ça s'appelle encore malheureusement, des règlements de compte. Mais moi, je suis un peu plus dure parce qu'un peu plus réaliste. Marseille fabrique depuis quelques années, une partie de ses enfants sont des assassins. Et ça, de dire cette phrase, ça me fend le cœur à mille morceaux, en fait, vous voyez. Et il n'y a personne qui affronte cette réalité. Donc, on s'est rencontrés avec des personnes qui font aujourd'hui partie du Printemps marseillais, par exemple, parce qu'on voulait proposer autre chose en dehors des partis politiques. Et quand, je vous avoue, on m'a dit « on va rencontrer Pape Diouf », avec ma grande gueule historique, je dis « mais n'importe quoi, c'est un fouteux, mais lâchez-moi, mais n'importe quoi ». Je ne connaissais pas Pape, je ne l'avais jamais rencontré, et on se rencontre... fait une réunion entre plusieurs têtes de réseau, c'est comme ça qu'on nous appelle, et je découvre cet homme. Je découvre cet homme d'une intelligence intellectuelle et humaine sans limite, et je suis émerveillée. Je suis émerveillée par tant de connaissances, tant de capacités d'analyse, tant de solutions concrètes, et surtout par celui qu'il est et par sa réussite personnelle. Et pour moi, tout de suite, il a incarné quelque chose qui pouvait faire monter la mayonnaise, comme on dit à Marseille et ailleurs. C'est-à-dire la réussite par le travail d'un enfant d'immigré, d'un immigré lui-même qui est arrivé à 18 ans et qui s'est construit seul dans le halal, c'est-à-dire pas en trafiquant, en volant, en vendant de la drogue, en tuant. Il a sans réussi excès. En travaillant dans un pays qui n'était pas le sien, tout seul. Et si lui l'a fait, d'autres peuvent le faire. Il fallait leur montrer, parce que ce n'est pas un exemple qu'ils ont, les enfants, dans les quartiers. Et donc, tout de suite, ça l'a fait. Et Pape n'était pas un homme qui... Pour moi, il faisait de la politique au quotidien, mais ce n'était pas un politicien. Et donc, du 17 septembre 2023 jusque le 1er février 2023, 2013, pardon, 2014, on s'est parlé quasiment quotidiennement jusqu'à parfois 4 ou 5 heures du matin. Et un jour, il a craqué. Il m'a dit « on y va ». Parce qu'il ne voulait pas forcément s'engager dans la politique au départ. Et il m'a dit, on y va parce que je ne peux pas rester insensible à celle que tu es et à tes arguments. Et ça m'a beaucoup touchée. Et donc, on s'est engagé dans cette campagne électorale très tard, puisqu'on a fait notre déclaration le 4 février 2014 pour une élection qui se tenait fin mars, mi-mars. C'était très tard, mais on a réussi à faire presque 6% sur la ville en n'ayant ni parti politique, ni structuration, ni argent. On a tout fait en 6 semaines, en moins de 6 semaines. Et donc, c'était un véritable espoir, sauf que lui et moi, nous avions été déçus à l'époque, puisque des gens qui nous accompagnaient, comme Sébastien Barle, Pierre-Alain Cardona, etc., nous, on avait mis une règle de départ, c'était, on voulait gagner, on voulait incarner quelque chose. Et donc, on s'est dit, si on arrive en tête, on donne les règles du jeu, et on y va, et on reconstruit la ville sur des bases qui sont l'honnêteté, le travail, etc., etc. Sauf qu'on était accompagnés de personnes qui voulaient juste être élues, peu importe la liste, et donc il y a eu une scission... au lendemain du premier tour, enfin au soir même du premier tour, en disant, enfin, nous on ne voulait pas faire fusion avec ces gens-là, parce que c'était la règle de départ, et tous nous ont quittés, et y compris Mme Michèle Rubirola, hein, je le dis très tranquillement parce que c'est la vérité, ils nous ont quittés parce qu'ils voulaient être élus. Auquel cas que d'ailleurs Mme Rubirola a été élue 6 mois après, avec Benoît Payan comme conseillère départementale. Et la seule qui est restée sur la ligne de Pape Diouf, c'est moi. Parce que moi, je ne faisais pas de la politique pour être élue. Je faisais de la politique pour mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et pour dire à tous ces jeunes... Vous savez, à Marseille, c'est ce qui nous a frappé, Pape et moi. Pape habitait au Roucas-Blanc à l'époque, quand je l'ai rencontré. Le Roucas-Blanc est l'arrondissement, avec ceux de Neuilly, le plus cher et le plus riche de France. À 5,6 km à vol d'oiseau, il y a celui de la Belle de Mai. Le quartier de la Belle de Mai, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, est le plus pauvre d'Europe. Et donc, et Pape connaissait ces deux mondes. Mais je crois qu'avec moi, c'était le seul de toute la liste qui connaissait ces deux mondes. Qui ne se croiseront jamais à Marseille et qui ne feront rien ensemble, ni une journée de Noël, ni rien du tout en fait, ni le Ramadan, rien. Ces deux mondes qui ne se connaissent pas et que Pape et moi ont côtoyé et qu'on voulait se faire se rencontrer. Parce qu'encore une fois, les gens n'ont peur que de ce qu'ils ne connaissent pas et de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc on s'est engagés là-dedans, tous nous ont quittés, tous ont été élus d'ailleurs. Si le printemps marseillais ne m'a pas appelé lors de la première initiative qui était soi-disant populaire, etc., c'est parce qu'ils savent que moi j'ai une ligne de conduite où il faut me donner les moyens de travailler. Moi, tout ce que je fais, je tiens à le préciser, je ne sais pas si tout le monde le sait, je le fais de manière totalement bénévole depuis 7 ans. Enfin, depuis toujours, mais en particulier ces 7 dernières années où je suis à plein temps sur ces problématiques de péril dans le logement, etc., etc. Et donc, on s'est rencontrés, on a eu un coup de cœur. Lui et mon fils, pareil, ils avaient une vraie relation très solide. Et malgré un contact toutes ces dernières années, et je voudrais évoquer une phrase qu'il m'a dite parce qu'elle me... La dernière rencontre avec Pape chez lui... Il avait insisté pour que je mange chez lui, et vu que mon fils n'avait pas fait les devoirs, j'insiste pour rentrer. Sa cousine devait nous rejoindre. Et il insiste pour me ramener ce jour-là. Et vous allez comprendre, je vais prendre quand même 3 minutes pour raconter ça, parce que c'est très important. Dans la religion musulmane, on dit que lorsque une personne va mourir, 40 jours avant, l'âme le sait, et elle dit au revoir à son entourage.
Si, ça oui.
Et nous, on était là-dedans sans le savoir tous les deux. Et donc, j'étais avec mon fils et il insiste pour qu'on mange là-bas et je refuse. Et il insiste pour me ramener à la maison. Et je dis non, ta cousine arrive, il me dit le matin. Et il ne voulait pas me quitter. Il m'a raccompagné jusqu'à l'arrêt de bus parce qu'après, il habitait du côté de la Pointe Rouge. Et j'insiste pour qu'il aille préparer le repas à sa cousine et tout. Et il insiste pour que je reste. Et ce jour-là, il me dit que Michel Rubirola était passé par quelqu'un pour venir le voir, pour le soutenir à la campagne. Que Awaria Hadjachir était venu aussi, etc., etc. Et que plein de gens étaient venus. Et il me raconte qu'il était en train de vendre l'école de journalisme et qu'il avait reçu une proposition à l'OM qu'il avait refusée. Et si vous voulez, il me dit je vais partir, je vais habiter au Sénégal, mon appartement est terminé, celui que je voulais à Dakar, ma fille est là-bas, ma guette, etc. Et j'ai besoin de retourner au Sénégal. Et moi je lui dis non, il faut qu'on parte, regarde, ils viennent tous se chercher, on va y aller, Pape, on va donner nos vraies règles, on a encore le temps, etc. Et il insiste, et quand il me dit qu'il vend l'école de journalisme, je comprends que cette fois-ci il part. Et mon fils s'effondre en larmes. Je lui dis, il avait une relation fusionnelle tous les deux. Tu nous abandonnes. Et je dis, non, mais tu viendras nous voir, Maguette à la Grange, etc. Et on discute de ça. Et moi, j'ai eu vraiment un coup au cœur. Je lui dis, ah, cette fois-ci, il s'en va. Il me dit, mais je continuerai à venir. Et il me dit, tu sais, Kaouter, je te parle de tout ça. Et tu me dis, toi-même, viens, on part aux élections. Il me dit, mais j'ai honte. Je lui dis, mais pourquoi tu as honte, Pape? Il me dit, j'ai honte parce que tous ces gens qui viennent me solliciter, moi-même, aucun d'entre nous ne donne à la ville et n'a donné à la ville ce que toi tu donnes à la ville. Donc j'ai honte d'être sollicité par rapport à ma notoriété, mais le taf c'est toi qui le fais, c'est ni eux ni moi. Et il me dit, tu sais, Kaouter, un jour tu devras prendre une décision. Et un jour, parce que tu as un destin à accomplir qui te dépasse. Et quand tu seras prête à prendre cette décision, ne laisse personne te dire que tu n'es pas légitime à cette place. Et c'est une phrase qui résonne tellement. Et il est mort quelques semaines après. Et quand il est mort, pareil, le dimanche, je devais manger chez lui. Moi, je suis très à cheval sur les devoirs. Mon fils n'a pas fait les devoirs, j'y vais pas. Le lendemain, il devait manger avec Philippe Saint-Marco, qui était son ami. Bon, le rendez-vous sera pour X raisons, parce que Pape mardi partait en Afrique, d'abord dans un pays, ensuite au Sénégal. On s'entretient au téléphone longuement le samedi, et il meurt le mardi. Et le lundi, il répondait plus au téléphone. J'étais hyper inquiète, j'appelais tout le monde, etc. Et il était déjà dans le coma, le pauvre. Et tout ça, c'est pour vous dire qu'en fait, l'Afrique l'appelait et qu'il est mort sur sa terre natale, il est mort dans son pays, sur le tarmac certes, mais il est mort dans son pays et c'est la seule chose qui me réconforte parce qu'il nous disait à ce moment-là, sans le savoir lui-même, adieu, parce que sa terre le rappelait.
C'est clair.
Oui, vous savez, je suis tellement touché par ces témoignages parce que...
C'est profond.
C'est profond. Quand je suis venu ici à Marseille, Pape Diouf était mon protecteur. Et j'ai travaillé plusieurs années avec lui. J'étais aux États-Unis quand il a ouvert sa société de Mondial Promotion. Il m'appelle et me dit, oui, tu m'as toujours dit, quitte le journalisme et va ouvrir ton agence d'agent de joueurs. Là, je l'ai ouvert et je suis seul. J'ai besoin de toi, il faut que tu viennes me donner un coup de main. Ça, c'était dans les années 90. J'étais aux États-Unis, j'étais bien aux États-Unis et j'ai quitté les États-Unis. Je suis venu en France, je l'ai accompagné. J'allais superviser les compétitions de moins de 17 ans, des moins de 20 ans en Afrique. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup... J'ai appris beaucoup de choses à ses côtés. Et là, il y a quelque chose qui me fend le cœur. Moi, j'ai été dans le bureau du maire actuel Payen. Ils avaient promis qu'une rue ou bien un stade... ou bien quelque chose de grand,
hein,
serait baptisé au nom de Pape Diouf. Je suis déçu
sans suite.
Que la Provence, Pape Diouf, avant d'être ce qu'il est, il a été journaliste à la Marseillaise. Je suis déçu que la Provence avait promis de créer un prix Pape Diouf. Chaque année, les meilleurs journalistes qui écrivaient sur l'OM allaient recevoir le prix Pape Diouf pour le meilleur article. Jusqu'au moment où je vous parle,
il n'y a rien.
Bien vrai que dans le premier arrondissement, il y a quelques mois, il y a un complexe sportif qui a été décoré au nom de Pape Diouf par le maire de la commune du premier et du septième arrondissement.
Sophie Camard.
Mais la ville de Marseille attend que le maire Payen puisse faire quelque chose au nom de Pape Diouf qui a rendu service à Marseille. Pape Diouf est resté dans le cœur des Marseillais. Pape Diouf mérite plus que ce que on lui a donné tout récemment. Et j'interpelle encore une fois le maire, j'interpelle encore une fois la province de n'avoir pas tenu leur parole.
Mais vous faites bien, mon cher Moïse, de les interpeller. Moi, je vais plus loin. Ce qui a été inauguré dans une rue derrière le cours Belzunce par Sophie Camard est très, 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 très en deçà de ce que mérite Pape Diouf, son parcours et l'empreinte indélébile qu'il a laissée à Marseille en termes de ville, au sein du club de l'OM, qui est quand même l'identité même avec la bonne mère de Marseille, et de cet espoir unique qu'il a insufflé à tous les enfants des quartiers populaires et de l'immigration postcoloniale par son parcours et par sa candidature. De légitimer le fait que vous êtes des Français à part entière, j'ai réussi, vous le pouvez aussi. Et c'est bien sûr une honte internationale à Benoît Payen, mais surtout à Michel Rubirola, excuse-moi, qui a été tête de liste dans le 4e arrondissement, dans le 4e, pour Pape Diouf, qui a été, elle, élue par les Marseillais, même si elle a cédé sa place au bout de 6 mois, et ça c'était prévisible pour tous les experts, comme je le suis, qu'il avait annoncé dès le mois de juin, mais elle a aussi un pouvoir de pression et un pouvoir d'action dont elle n'a pas usé, alors qu'elle a été candidate de Pape Diouf en 2014 et qu'elle est venue le supplier, et j'utilise ces mots, chez lui, à la Pointe Rouge. À l'époque, c'était la résidence du Lapin Blanc. Il est mort, il habitait là-bas, d'accord ? Avec des gens qui l'ont introduit parce qu'elle n'avait pas gardé le contact, pour la soutenir sur cette pseudo-liste citoyenne qu'est le Printemps Marseillais, qui est en fait un regroupement de partis, et en particulier mené par le PS. Moi, j'ai aucun problème avec ça, mais il faut assumer son identité et son parcours. D'accord ? Et donc, honte à Benoît Payen, mais honte d'abord à Michel, que je connais personnellement et que je croise très régulièrement, qui n'a pas honoré la mémoire de celui qui lui a permis d'émerger politiquement en 2014, parce que personne ne la connaissait, et d'être ensuite élu maire de Marseille en 2020. Michel Rubirola, médecin de profession, qui a été colistière dans le 4-5 de Pape Diouf en 2014, qui l'a sollicité pour 2020 avant qu'il décède, et qui n'est pas en capacité aujourd'hui à mettre la pression sur le maire ou à initier elle-même une action, parce qu'elle a de la visibilité, elle est première adjointe de la ville de Marseille quand même, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, au-delà d'une place, d'un petit complexe, mais excusez-moi, cet homme, à ce jour, a été le seul président noir d'un grand club d'Europe.
qui a redressé les finances.
Et il a redressé les finances entre 2005 et 2009, etc., etc. Et donc ça, dans la symbolique, surtout dans un contexte, comme on le disait tout à l'heure, on a commencé par ça, de trafic, de perte de repères, d'identité pour la jeunesse, etc., c'est quelque chose de merveilleux. On pourrait déjà commencer d'abord, pourquoi on se limiterait à un endroit ? Il y a, pour certains tortionnaires, pendant la guerre d'Algérie, plusieurs rues, plusieurs monuments dans la ville et ailleurs, vous voyez, à leur effigie. Donc pourquoi déjà ne pas commencer à renommer l'arrêt, la station de métro Rond-Point du Prado, Pape Diouf déjà ? D'accord.
Alors, Michel, pour mieux avancer, vraiment, vous avez la maîtrise, non seulement si vous êtes engagé aussi dans ces combats, il en faut déjà des personnalités comme vous. Et cela dit aussi, on dit des mauvais jours qui passent, jamais s'effacent, celle de le drame de la rue d'Aubagne. Et d'ailleurs, il y a eu d'autres drames, silence absolu. Et les beaux jours qui passent, jamais s'effacent, puisque vous êtes avec beaucoup d'émotion, revivre... comme s'il est encore, il vit avec nous. Et pourtant, son âme est partie, mais son âme est vivante. Il est avec nous, donc Pape Diouf. On ne peut que te remercier. Mais parle-nous, justement, ce livre. Parce que cette émission peut-être va s'achever ce dimanche, en cache une autre. Prochainement, une date ultérieure. Vous vous préparez à ce moment-là. On sait qu'on va se concentrer sur cela. On évitera aussi les auditeurs et auditrices de contribuer. Parce que c'est les enfants de la cité, et cette radio, tu le sais, de son vécu, 42 ans et demi, et les années, on continue. Voilà, c'est un combat de tous, nous sommes tous, du moins, acteurs dans cette société. Parlez-nous de ce livre, c'est un livre de son compte vécu, ou c'est un livre qui soulève, qui brise le silence de cette cité, ou bien c'est un livre qui te permet aussi, on ne sait pas déjà pourquoi ce livre est né, parce que ce livre est né, je crois qu'il est intitulé sur un drame ou sur du bonheur.
C'est un livre qui est... J'ai eu en 2023, donc c'était 5 ans, à 5 ans de cet effondrement, j'ai eu le besoin de tout écrire, j'ai eu le besoin de mettre ça sur papier, j'ai eu le besoin de laisser une trace dans la Bibliothèque nationale de cet effondrement, parce que vous savez, moi je suis beaucoup en réunion institutionnelle depuis le début, depuis le premier jour. En fait, la première réunion qu'on a eue, c'était début novembre, le 14 novembre. Il y a toujours des personnes dans les réunions, messieurs et mesdames et messieurs les auditeurs, qui n'ont absolument rien à voir avec le logement indigne. J'appelle ça des paternalistes, qui créent des associations, qui savent écrire, qui sont des urbanistes ou autres, qui sont très engagés, mais qui sont très engagés, qui parlent d'une problématique qu'ils ne connaissent pas. Et moi, il faut savoir, je commence mon livre par ça d'ailleurs, je suis née dans un bidonville, celui de l'Estac à Marseille, qui a été le dernier bidonville à avoir été rénové dans la ville. Les deux derniers étaient celui de La Cayolle, et donc dans le 9e.
Un village dans une ville.
Exactement. D'ailleurs, quand j'étais enfant et qu'on venait dans le centre-ville, on disait « nous allons à Marseille ». On ne se sentait pas faire partie de cette ville. Et donc, quand on est et qu'on grandit dans un bidonville et qu'on croit que c'est la normalité, il y a un problème. Quand je raconte mon parcours, je me dis « mais tu es dans quel pays ?» Je suis née en France. Et avant moi, il y avait ma mère, il y avait ma grand-mère, père son âme, et il y avait surtout les Italiens, parce que les Italiens qui avait fui le fascisme, avait été accueilli par la France dans ces conditions. Et il est intéressant de poser, à l'époque de l'Ukraine et à l'époque de l'immigration qui vient aussi d'Afrique, comment la France accueille ceux qui sont sa force et ceux qui font les emplois que les Français ne veulent plus faire aujourd'hui et qui sont surexploités au niveau économique. Bon, ça c'est encore une aparté, on pourra en faire une émission un jour. Donc moi, quand on approchait des 5 ans, j'étais habitée, j'entendais des gens parler qui savaient pas de quoi ils parlaient, qui n'en venaient pas, qui avaient un discours qui était forcément un peu décalé, même si certaines fois étaient de bonne foi et certaines fois étaient de manipulation politique, parce que je rappelle que tous les membres du collectif du 5 novembre quasiment, que j'ai co-créé au départ, mais que j'ai vite quitté parce qu'il était très manipulé au niveau politique, donc j'ai monté Marseille en colère, mon association, qui elle existe toujours, sont aujourd'hui élus avec le printemps marseillais. Ils sont élus, mais ils ne sont pas de notre côté aujourd'hui, parce qu'ils sont élus, donc c'est merveilleux. Comme j'ai dit, je vais me permettre de citer, et ça résume aussi mon livre, l'actuel directeur du service logement et péril de la ville de Marseille est Florent Houdemont. C'est l'ancien directeur de la Fondation Abbé Pierre. Et il y avait un discours qui était tellement violent envers les délogés de la part des pouvoirs publics le 3 décembre que je leur ai dit « excusez-moi, je suis obligée d'intervenir parce que votre vocabulaire est violent, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'est plus dans la même équipe alors que toi Florent, avant d'être en poste à la mairie, tu étais de notre côté ». celui des délogés. Et là, tu me parles de la puissance publique, de ses responsabilités financières, dont je me fous complètement. Moi, je suis là pour sauver des gens qui sont d'abord victimes de marchands de sommeil, d'habitats insalubres et de cols blancs qui ne font pas leur travail, notamment chez les politiques publiques. Et le procès de Larry Lubin nous l'a rappelé. Et donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut donner la parole à ces gens-là et que nous tous, de manière structurée dans des associations ou pas, auteurs, journalistes, nous avons un devoir de soutien à ces populations qui sont méprisées et qui ne connaissent pas leurs droits. Que ce soit des Marjorie ou des Mariama, ces femmes, et je dis ces femmes parce que sur 100 dossiers que je vais accompagner, et j'en ai 8000 depuis 7 ans, j'ai accompagné à chaque fois 99 femmes. Parce que la violence de ce drame de mal logement est aussi le reflet de la violence sociétale où les femmes sont obligées d'arrêter de travailler pour élever leurs enfants, que certaines élèvent seules leurs enfants, qu'elles ont des salaires jusqu'à 30% moins chers,
des
compétences, etc. Et donc les violences sociales, l'inégalité salariale, etc. fait que elles n'ont pas accès à un logement digne tout court parce que les conditions qu'on demande aujourd'hui, à savoir gagner 3 fois le salaire, avoir un garant, etc., ne sont pas possibles pour 95% de la population. Bon, ceci étant dit, j'ai contacté un éditeur qui voulait travailler avec moi depuis longtemps. Il a dit oui, je l'en remercie. C'est David Gossen des éditions Gossen à Marseille qui se concentre sur le travail. Qui se concentre sur en fait l'histoire de Marseille. Ça, il faut lui rendre hommage. Même si j'avais d'autres propositions au niveau national, puisqu'à l'époque j'étais encore au GG. Et ça m'a habité. Et j'ai écrit ce livre en moins de 5 semaines. Et je me souviens que le dimanche où est morte Sokaina, père son âme à l'Adhamha, j'avais arrêté, j'avais terminé. Je devais l'envoyer à mon éditeur pour relecture, en fait, et pour validation. Et j'apprends la mort de cette jeune fille. Et je refuse de m'exprimer parce que je n'habite plus dans ces cités, etc.
Impitoyable.
Donc je contacte les gens. Et j'ai repris l'écriture de mon livre et j'ai ajouté un paragraphe pour Sukaina. Parce que la mort de cette petite méritait d'être elle aussi immortalisée dans la Bibliothèque nationale. Personne ne doit oublier. Mais comme personne ne doit oublier aucun des morts qu'il y a eu, qu'ils soient dans les narcotrafics ou pas.
Il n'y a pas un bon mort ou un mauvais mort.
C'est des morts, c'est des enfants qui meurent, voilà, et qui sont victimes de tellement d'autres violences qui font qu'ils arrivent à là. Et donc, Sokaina m'avait beaucoup ému, beaucoup traumatisé. Donc, il y a quelques mots en hommage à cette jeune fille, à sa famille dans ce livre. Et ensuite, je l'ai envoyé. Il a été, j'ose le dire aujourd'hui, le seul mot qui a été changé par mon éditeur, c'est qu'à un moment donné, j'évoque Monsieur Payan. Et que je le définis comme le rejeton de M. Guérini. Et mon éditeur m'a dit qu'on ne pouvait pas parler d'un maire comme ça. Et donc, on a mis héritier. Et je suis fière parce que pour mon premier livre qui a été écrit quasiment d'un seul trait, il n'y a qu'un seul mot qui a été corrigé par mon éditeur. Tout le reste, c'est la production de mon expérience, c'est le récit de mon expérience, mon récit de vie, d'où je viens et qu'est-ce qui s'est passé le 5 novembre, pourquoi je me suis engagée, aux côtés de qui, pour qui. Et j'ai choisi 5 familles avec lesquels je n'ai pas fait moi l'entretien parce que je tenais, c'était très très important pour moi, pour ne pas dire essentiel, que ce soit leur vécu et leurs mots. Et je les accompagne de manière tellement intense au quotidien que j'avais peur que ma transcription, mes mots prennent le dessus sur les leurs. Donc j'ai fait faire ça par Cécile Silvestri, à qui je rends hommage, qui est une dame qui fait des ateliers littéraires, qui a reçu ses familles, qui est une travailleuse sociale que je connais depuis très longtemps, qui a reçu ses familles et qui a fait des entretiens, qui a été elle-même bouleversée par le récit direct de ces familles, de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'elles vivaient encore, que ce soit par la mairie de droite au départ et de gauche ensuite. Et elle a retranscrit leurs paroles. Et moi, j'ai tenu, c'était la condition que j'avais mise à Cécile, que je me foutais complètement des fautes de syntaxe de français, que je voulais qu'on respecte leurs paroles, leur identité, leurs mots, dans l'ordre qu'elles décidaient. Ça a été aussi un combat avec mon éditeur, parce qu'il trouvait que ce n'était pas du bon français. Mais comme je disais, je ne concours pas à un concours au niveau national, je veux, je tiens, j'exige que leur histoire et leur identité soient respectées et que les gens qui vont lire ce livre et que ce livre qui est aujourd'hui dans une des étagères de la Bibliothèque nationale de notre pays grave pour l'éternité leur parcours.
En tout cas, ce n'est qu'on au revoir. Merci de nous avoir accordé ce temps. Mais vous allez continuer avec nous parce que nous avons de l'actualité actuellement à Marseille. Et comme chaque dimanche en cache une autre, et nous avons aussi des acteurs qui touchent, comme Madame Camara, qui est belge, qui fait énormément de choses pour les enfants talibés. C'est des enfants malheureusement abandonnés ou emprunté, même vendu à leur maître professeur coranique, et ce n'est pas tous hein, dans le même panier, mais qu'ils arrivent à faire de l'insertion, les apprendre à se travailler avec un outil. Et on est aussi dans la phase, dans quelques jours, on aura bien sûr une grande rencontre dans la cour des grands. Il n'existe plus petit club ou petit pays. Le football est, et c'est l'endroit où il y a du plaisir, il y a du désir et il y a le verbe souffrir, et c'est ça, tout le monde est dans sa nation. Et, le modèle universel, quand on voit le Comore revient de force, premier match d'ouverture c'est le Maroc, le Lion d'Atlas, et contre le Lion Tanzanie, même si on dit Tanzanie n'est pas dans la cour des grands, mais Tanzanie, Madagascar, Seychelles et Comore qui se ressemblent, sont tous dans l'archipel du Comore. Alaji Moussa, et parle-nous de cette tournée, de cette grande dame aussi, reconnue, et qui fait des choses, et qui est dans la cité. Moi, je suis pas du tout au courant, mais on apprend toujours, tous les jours, chaque jour suffit sa peine. Parle-nous un peu cette dame, en tournée dans la cité. Dommage que je pense que tous les Marseillais sauront peut-être de prendre un cours qui leur permette aussi d'assister. Mais pour aussi notre Kadhafi Junior, il est absent. Mais pour les chroniques aussi de cette grande rencontre au Maroc. Et Maroc qui devient vraiment dans la cour des grands et de l'esprit sportif. Et même les équipes féminines évoluent beaucoup au Maroc comme le Sénégal, et je crois que lentement, doucement mais sûrement, voilà, l'Afrique se réveille et une prise de conscience, voilà, quelle que soit la discipline, le sport c'est la santé. Nos enfants ont eu la chance d'être dans cette discipline, et puis vivement le sport.
Oui Mamadou, honneur aux dames, nous venons d'entendre notre sœur et notre amie Kaoutcher, qui est une combattante que depuis des années, elle est dans tous les combats. Quelque part, je la regarde, je vois les élus, mais je me dis, mais pourquoi cette dame n'est pas élue? Puis je me dis, mais il y a un problème. Quelqu'un m'a dit, c'est l'escabeau. Elle est une faiseur ou faiseuse de rois et de reines, les gens viennent, l'utilisent comme un escabeau, ils montent et ils s'en vont, après ils l'oublient. Elle est là.
Mais ils redescendent quand même, eux aussi.
Mais sache que tu es dans notre cœur. Il y a une autre dame qui est là dans la cité, cette dame qu'on appelle Antambou. Antambou vivait en France, son mari était un basketteur international sénégalais, Doudou Lady Camara, qui a représenté le Sénégal aux Jeux Olympiques de 68, de 72, un grand basketteur. Donc, ils ont vécu ici en France. Et elle est rentrée depuis 23 ans au Sénégal. Quand elle est rentrée, il y avait un cinéma qui se trouvait dans mon quartier qu'on appelait le cinéma Les Empires. Et elle est venue, elle a pris ce cinéma, elle en a fait l'empire des enfants. Donc tous les enfants de la rue, elle a récupéré une centaine ou 200 ou 300 enfants de la rue qu'elle avait mis dans ce centre qui était renommé l'empire des enfants, qui est connu par tout et toutes les Sénégalais. Là, elle est là, elle était à Paris avec une exposition qui s'appelle « Les champions de leur propre vie ». C'est une exposition photo où on te montre le côté émotif, le côté négatif de nos pays où l'enfance n'existe pas. Donc elle, elle est là comme avocate depuis 13h jusqu'à 18h à Conbred, 15 rue des Trois Rois dans le 6e arrondissement. Elle est là-bas avec son équipe pour faire une exposition et aussi attendre la solidarité. Il faut que toi, moi et un autre puissent aider les autres. Un petit 10 euros, un petit 20 euros, si ça, ça rassemble, ça fait quelque chose pour aider des gens qui sont dans la détresse partout dans le monde.
Pour contribuer.
Normalement, bon, elle devait intervenir dans l'émission. On attend son appel. Ça, c'est Antambou de l'Empire des Enfants qui est dans la cité. Donc, on attend son appel. Actualité oblige, Mamadou.
On va quand même offrir le numéro de standard parce que depuis qu'on a commencé, et la maîtrise donc de notre avocate et ambassadrice donc à Kauter, 04 91 08 28 10, gratuit, et peuvent nous faire décoller.
Appelez au 04 91 08 28 10. Cette émission, elle est à vous. Nous sommes là tous les dimanches pour vous divertir, pour apporter de la joie dans nos cœurs et vos cœurs. On peut bien rester chez nous avec nos familles, mais on se sacrifie pour vous. Exceptionnellement, ce monsieur qui est à côté de moi, qui est Mamadou. Des fois, je le regarde, je dis, mais vous savez, c'est une drogue. C'est une drogue. Lui, il est drogué d'être, de servir les gens, de venir à la radio. J'étais pas prévu de venir. Il m'appelait, où tu es? Descends. J'ai tout laissé.
C'est pas mon premier coup d'essai.
J'ai tout laissé. J'avais des programmes. J'ai tout laissé. Parce que je peux pas lui dire non, parce que c'est le chef. Donc quand le chef, il veut quelque chose...
Mais nul ne peut te remplacer. Quand une chèvre, elle est présente, personne ne peut, tout le monde limite, jamais égalé. C'est l'œuvre, c'est l'art. Lui, là, la parole, c'est l'art. C'est ce que Dieu lui a donné. Et encore, il le transmet parce qu'il le partage. Ça lui fait du mal, mais c'est du mal pour du bien.
Moi aussi, j'avais autre chose de prévu. Mm-hmm. Et qu'hier, nous sommes rencontrés au bord d'un stade hasard. Où son fils jouait. Et c'est le fils de ma voisine que je
connais
jouer, Maya. Et donc, il m'a invité. Et j'ai moi aussi annulé tout ce que j'avais à faire aujourd'hui. Et Dieu sait, vous aussi, les garçons, que mon emploi du temps, il n'y a pas de week-end, des jours fériés pour nous. Il est hyper chargé, hyper intense. Plus que nos élus, comme tu le disais. Et qu'on ne peut pas. C'est aussi ça, la solidarité, c'est d'aller de sens. On ne peut pas ne pas répondre à un appel, qu'il soit de quelqu'un qui a une association comme la dame que tu nous as dit qui est aux Trois Rois, qu'il faut soutenir dans le bon sens, à celle de Mamadou, à la tienne mon cher Moussa, Moïse, et à la mienne et à tous, parce que sans solidarité la ville s'effondre, et nous devons rester tous solidaires et répondre aux appels les uns des autres, malgré tous les malgré.
J'en profite aussi pour rappeler aux frères sénégalais, surtout de la diaspora, le 17 décembre 2025 sera la journée internationale de la diaspora que le gouvernement du Sénégal avait décrété. Nous sommes aujourd'hui, quoi, le 5 ?
Le 7, non ?
Le 7 décembre ? Ouais, nous sommes aujourd'hui le 7 décembre.
Les jours passent vite.
Et je voudrais interpeller le consul général du Sénégal à Marseille.
Le nouveau consul,
quand je dis le consul général,
que
nouveau,
j'ai jamais rencontré,
ouais, qui est Abdullah Serigne Fallé Le Diouf. Je voulais l'interpeller pour savoir où est-ce qu'on en est sur cette journée internationale de la diaspora. Est-ce que les Marseillais sont impliqués dans cette journée ou pas?
En tout cas,
nous attendons une réponse du consul général.
Vous avez rendu hommage à un ancien procureur, quand même, Pape Boumediene,
oui,
qui était là, donc le premier, quand même, consul général, et qui a su chaque date historique liée à notre indépendance, qu'importe, même s'il est mis en cause, le 4 avril, avec les partenaires du Sénégal.
Il était le seul.
On était réunis et c'était l'âge, et on apprend à se connaître même entre Sénégalais. Et c'est pas parce qu'on est dans la diaspora, on arrive à se connaître entre Balante, Diola, Serer, Olof, qu'est-ce que tu veux. Le Sénégalais avait aussi ses amis qui participaient à ces fêtes.
Oui, j'ai eu juste quand j'ai publié la photo, Ndiaga Diallo, que je salue au passage, Diaga, bonne santé à Diaga et son épouse Marie, je vous salue. Diaga m'a rappelé que Pape Boumediene est décédé il y a quelques années, paix à son âme, mais il faut lui reconnaître qu'il a été le seul consul général que chaque année, quand il y a la fête de l'indépendance du Sénégal, il offrait un cocktail à toute la communauté sénégalaise de Marseille. Et toute la juridiction, lui, il a été le seul à le faire. Tous les autres consuls ont prétexté qu'ils n'avaient pas un budget. Mais avec lui, quand même, rendons à César ce qui lui appartient, paix à son âme. Nouveau consul, on attend une réponse concernant la journée international de la diaspora qui aura lieu au Sénégal le 17 décembre. Marseille, c'est la deuxième ville de France. Marseille ne doit pas être oubliée. Il ne faut pas que les choses soient concentrées uniquement qu'à Paris. Nous, nous existons, nous avons une juridiction, nous avons un consulat qui est étendu jusqu'à Montpellier, tous les gens, Nice, Cannes, Toulon, tout le PACA plus Montpellier fait partie de cette juridiction. Donc Marseille demande qu'on le respecte. Nous voudrions savoir qu'est-ce qui se passe et nous voudrions aussi participer au développement du Sénégal. Et il faut éviter de politiser ces événements, la diaspora et la diaspora. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de pasteur, on ne parle pas de l'opposition, on parle de la diaspora.
À l'intérêt.
Et nous qui sommes, nous sommes des experts, 50 ans que nous sommes dans la diaspora, nous avons notre mot à dire, il faut qu'on nous respecte, il faut qu'on nous convie à ces événements afin que nous puissions travailler ensemble. La nouvelle génération a besoin des anciens.
Tout à fait.
Donc tous ensemble, on peut bâtir quelque chose de nouveau.
On doit bâtir, et ça c'est une responsabilité de la diaspora, et j'en profite pour rebondir, les garçons, puisque je suis absolument abasourdie, mais pas que de la part du consul du Sénégal, mais de la part de tous les consuls, de toutes les diasporas qui sont présentes à Marseille. Et bien sûr que Paris est la capitale, mais je rappelle à toute fin utile que Marseille est aux portes de l'Afrique.
Tout à fait.
Et qu'à ce titre, elle est, d'un point de vue géographique et d'un point de vue de son histoire, parce que tous les enfants de l'immigration postcoloniale sont d'abord arrivés à Marseille. Et après, ils se sont dispersés dans le reste du pays. Et que donc Marseille a historiquement une place de choix, une place importante, et qu'il est absolument... Je vais utiliser deux mots qui sont très dichotomiques, à la fois incompréhensibles et à la fois scandaleux que les diasporas ne soient pas rassemblés par l'autorité consulaire, par l'autorité qui représente nos pays d'origine, et qu'elles ne mettent pas des espaces. Bien sûr qu'un consul, un ambassadeur doit être neutre.
On va prendre peut-être, c'est le consul qui téléphone.
Ah ben voilà, si le consul, on laisse parler. Alors voilà.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est pas le consul, hein.
Ah. D'accord, c'est le vice-consul.
C'est le consultant.
Oui, c'est le secrétaire du consul, le sous-consultant.
C'est le consultant.
Voilà, bon, ça commence quand même avec un C, pour faire l'humoriste ivoirien. Ça commence que toujours par le C. Consultant.
Consultant s'appelle comment?
Bilanchoun.
Comment s'appelle le consultant?
Bilanchoun.
Comment il s'appelle?
Comment vous vous appelez, monsieur?
Bilanchoun.
Tchoun Biraïm, ah bah, ça c'est l'ex-soi là.
Ouais.
Eh ben bon, vous êtes à l'antenne.
J'ai été copié par le discours de Madame Kaouter, c'est ça?
Oui, Kaouter, oui.
Donc, que j'apprécie énormément.
Merci, et, monsieur.
Il nous faut des gens comme ça sur les plateaux. Mm-hmm. Parce que c'est des gens qui sont dans la lumière, dans la clarté et dans la précision. Donc, moi, personnellement, j'adhère à ce genre d'idéologie. Voilà. Mais pour la parenthèse du consulat, je ne sais pas s'il faut le dire à ma façon ou pas. Effectivement, il faut rassembler. Et quand je dis qu'il faut rassembler, mais à chacun son tour. Il y a eu M. Koïta, enfin, il y a eu toute une succession de personnalités à Marseille. Et à l'ère de Abdourahmane Koïta, on a commencé à voir vraiment une consolidation dans ce système. Et comme je le sais, et comme vous le savez tous, le Sénégal est difficile à rassembler. Le Sénégalais est dur à rassembler. Je m'excuse, hein, mais je dis ce que je pense, et c'est la réalité. Mais je voulais dire à Mamadou, pourquoi pas nous, Sénégalais, on ne se dresse pas pour l'autre journée, le 4 avril. Donc, voilà ce que nous allons faire. Et je pense que dans des cas comme ça, le consulat, de par sa conscience et de par le personnel, je dirais, entre parenthèses, par sa compétence, vont nous suivre dans ce que nous voulons. Comme ils ont dit, n'attendez pas ce que le président ou l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez apporter à votre État. Donc moi, je pense que si on commence dans ce débat-là, il faut déjà aller vers le consulat, leur montrer ou leur donner une feuille de route, en leur demandant de nous accompagner sur ce système-là. Parce que si eux, ils n'ont pas, entre parenthèses, l'expérience ou le bon vouloir ou les finances pour faire quelque chose, je pense que nous, Sénégalais, nous devons accompagner pour qu'on voie le drapeau sénégalais.
Je suis entièrement d'accord avec toi.
qui sait au plus haut niveau. Bon, après, c'est ma personne. Hein,
mais tout simplement, il y a quand même des anciens qui sont avec lui et qui peuvent porter cette voix d'ailleurs sans notre présence. Il est vrai que nous devons faire les démarches, mais je pense que tous ceux qui sont à l'administration actuellement, c'était des anciens justement qui ont su et qui maintenant sont habitués et qui sont marseillais avant tout et qui, en même temps, c'est les mêmes dossiers qui je pense, c'est à eux d'intercepter le consul général. Il est vrai que dans la communication, nous avons aussi les communicateurs, mais il y en a d'autres, pour respecter bien sûr tous les cabinets consulaires, il y en a d'autres qui ont eu la chance de dire, ben, on va s'adresser aux antennes religieuses. Il est vrai que la religion existe, nos institutions religieuses existent, mais il y avait des associations aussi qui géraient, qui avaient le bilan, mais aujourd'hui, les associations sénégalaises sont abonnément absentes. Ils n'ont pas de bilan, ils n'ont pas de statut, le statut existe, mais beaucoup aujourd'hui, la préfecture même des Bouches-du-Rhône, il est incapable de toucher les Sénégalais parce qu'aucune association n'est opérationnelle. Donc c'est très difficile, c'est très complexe.
Je pense qu'en ce temps, Mamadou, j'ai vu un petit communiqué du 15 novembre, c'est la date exacte, qui demandait à ce que toutes les associations sénégalaises soient répertoriées et que eux, ils puissent faire l'enregistrement au niveau du consulat. Ça, c'est quelque chose. Je pense que c'était déjà une chose existante, mais je pense qu'ils vont essayer de mieux
travailler,
prendre conscience de la réalité des associations. Mais ceci dit, nous Sénégalais, on sait on connaît notre feuille de route. On sait que le Sénégal est dans une situation un peu critique, surtout sur le plan politique. Je pense que au niveau des institutions, nous devons peut-être donner la direction à prendre, voilà. Et ça va les aider, j'espère, hein, et qu'ils écouteront par rapport à leur expérience à eux. Et je pense qu'on pourra faire quelque chose d'extraordinaire.
Moi, j'ajoute que des fois, on tape sur nos diplomates qui sont ici, mais notre consulat est un consulat pauvre. Je vous assure qu'ils n'ont pas de budget. Des fois, on leur demande des choses qu'eux, ils ne peuvent pas faire parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget. Il faut aussi que les Sénégalais aussi... tu sais, tu peux réclamer tes droits, mais il y a un devoir aussi. Quand on appelle les Sénégalais à aller s'inscrire pour avoir la carte consulaire, 80% des Sénégalais qui sont ici n'ont pas leur carte consulaire. Il y a problème. Il faut aussi que nous recensions nous-mêmes, que les Sénégalais qui sont là dans la juridiction puissent aller s'inscrire pour au moins avoir leur carte consulaire afin que cette juridiction puisse savoir le nombre de Sénégalais
résidents
et inscrits. C'est ça, c'est quelque chose, c'est notre devoir. Bon, nous aimons trop réclamer les droits.
Ben, Biran l'a dit, hein, les Sénégalais sont compliqués.
Comme tu l'as dit,
hein.
aujourd'hui, ici à Marseille, la seule association active qui fait des actions, c'est Diaspora Santé Sénégal.
Oui.
Donc ça, il faut le reconnaître, Diaspora Santé Sénégal, dont je suis membre fondateur, comme Mamadou Ndiaye est membre fondateur, donc le docteur Martin Carvalho, Lamine Diakhaté que je salue au passage, qui est un peu alité, il n'a pas fait son émission Le Plateau du Sénégal ce samedi, parce
que ça va lui coûter cher. Hein.
Il est un peu souffrant.
On lui souhaite un bon rétablissement.
Je souhaite un bon rétablissement à Lamine. Donc nous sommes là à Marseille, on se connaît, il y a des gens qui font des choses et qui sont oubliés. Il y a des gens qui viennent et qui raflent tout. Et comme tu as dit, il faut des associations qui font des bilans. Et j'en profite aussi pour dire que l'association de la Faïka qui gère la mosquée, nous attendons qu'il y ait une assemblée générale. Il faut une assemblée générale au niveau de la Faïka, au niveau de la mosquée Bilal, pour que nous savions ce qui se passe, la gestion et tout. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc ça, c'est un appel que je lance aux responsables de la FAEKA, dont le président Mamadou Seck, Mbé Diop qui est le responsable. De grâce, nous vous demandons de rassembler. Pour rassembler, il faut une assemblée générale. Tout le monde l'attend depuis des années et ça tarde et ça finira par éclater et on ne le souhaite pas.
J'espère que non.
parce que ce qu'elle fait, enfin, moi je me permets d'intervenir, la mosquée Bilal est très bien située, elle existe depuis tellement d'années et elle rassemble tellement justement que ça serait dommage de la laisser imploser. Et donc j'en appelle moi aussi, parce que je vais faire la prière de temps en temps là-bas avec mon fils, à ce que ceux qui sont en responsabilité font ce qu'ils ont à faire pour que ces lieux qui sont de plus en plus rares, quand ils sont pérennes, puissent continuer à exister et à rassembler les musulmans de toutes les couleurs et de tous les pays. C'est essentiel. Et concernant la diaspora, je vais donner mon exemple, parce que vous savez, est-ce que vous avez comme problème au niveau du Sénégal, je crois que tous les pays d'Afrique l'ont. Moi, je suis d'origine tunisienne et depuis des années, je paye mon passeport tunisien, mais je ne m'en sers pas. Je paye ma carte consulaire, je paye ma carte d'identité. Et les gens marronnent, les Tunisiens, ils râlent toujours parce que le passeport tunisien est plus cher que le passeport français, alors qu'il n'est valable que 5 ans, alors que le passeport français est valable 10 ans. Et je dis, mais moi, quand je fais le passeport tunisien, ce n'est pas parce que j'en ai besoin pour voyager. C'est un acte de soutien patriotique.
Pour contribuer.
Exactement, c'est une contribution que j'apporte à mon pays. Et j'ai même eu des problèmes avec le consulat, parce qu'ils m'ont dit, tu fais le passeport et tu ne voyages jamais avec, qu'est-ce que tu fais avec? Et donc, j'ai dû expliquer aux autorités tunisiennes consulaires ici que moi, mon fils et tous les gens qui sont autour de moi, nous faisions le passeport tunisien, la carte consulaire et la carte d'identité, non pas pour avoir un titre de voyage, de transport, parce que le passeport français nous permet d'aller, de voyager dans le monde entier, mais c'est un acte de soutien à notre pays. Et il est essentiel, effectivement, tu disais, mon cher Moussa, que c'est vrai, nos consulats n'ont pas les moyens de nous organiser. Et c'est, par contre, nous mettre des lieux à disposition avec, par exemple, moi je parle pour nous, la Maison de la Tunisie, je ne sais pas si ça existe pour vous au Sénégal,
non,
dans toute communauté.
Voilà. Tout,
mais il faut essayer de nous soutenir aussi, mais il faut que chacun soit responsable de son propre engagement et que chacun, je l'ai dit tout à l'heure quand on a commencé la première partie en parlant de mon livre, de mon engagement et de la rue d'Aubagne, sache que même si c'est un arbre qui est développé aujourd'hui en Europe, sa racine est en Afrique. Et un arbre qui oublie ses racines est un arbre qui est voué à mourir, en fait. Donc chacun a la responsabilité de soutenir les siens, son village, pour une école, pour une bibliothèque, pour une route, pour, ou tout simplement pour quelquefois soutenir au niveau médical, parce qu'il y a des soins qui ne peuvent pas avoir lieu dans nos pays d'origine et il faut faire venir des fois des gens pour subir des interventions, des traitements, et que nous avons tous la responsabilité de notre propre action, qu'il n'y a pas de petit engagement, qu'il n'y a pas de petit don. Il y a des gens qui sont comme moi, comme vous, messieurs, capables de donner tout et même plus, et de donner sa propre vie, et en termes de temps illimité, dans la semaine, dans la journée. Et mais la personne qui va venir qu'une heure par mois, elle est aussi précieuse que celui qui vient 7 heures par jour. Et la personne qui va donner 300 000 euros par an, parce que j'espère qu'il y en a chez nous qui soutiennent leur... Ben, je sais que c'est très présent chez les Libanais, par exemple, que le Liban, par exemple, ne tient que grâce à sa diaspora au niveau économique.
Tout à fait.
Et ben, ça doit être un exemple pour chacun d'entre nous.
En tout cas, Kauter,
se dire qu'on donne chacun un peu, c'est important, c'est essentiel
Kauter,
pour
Kauter,
nos pays.
Kauter, pour te rendre hommage et pour rendre hommage aussi à toute la Tunisie, que franchement, j'ai beaucoup de plaisir et de mieux connaître, quelle que soit la couleur d'un cadavre, mérite d'être bien enterré. Je rends hommage à Mbaye et à Moïse Kouaté et à d'autres personnes qui se battaient pour l'assurance de nos défunts, quelle que soit l'heure, où nul ne sait comment tu finis dans ce monde, c'est d'accompagner nos défunts à leur terre, parce qu'ici, tu payes le loyer même en tant que corps sans vie. Voilà, et c'est décevant. Et la plupart, on est sur une actualité qui est très difficile, que je crois qu'il est de notre compatriote et qui est devenu directeur des cimetières. Il a constaté que tous les corps se sont... Ben, c'est imaginable. Et donc, cela dit, respect aux morts, silence aux morts. Et donc, Biran, ce que la Tunisie a fait, c'est un exemple à suivre pour d'autres pays. La Tunisie n'a pas ni le pétrole ni le gaz, mais il accompagne ses défunts chaque fois qu'il y a un corps sans vie. C'est le consul général qui s'engage à payer tout en charge et l'accompagnateur. Alors, et je sais que ce dossier, Moïse en avait commencé, trop parler pour tuer, hein. Je rends hommage à Kofi Olomide, trop parler pour tuer, ça veut dire qu'un homme qui en veut pour l'intérêt de tout le monde, eh ben, c'est la cible à battre, et c'est malheureusement, on te tue tellement tu ne meurs pas.
Je peux dire quelque chose?
Oui.
Allez, concernant Hatab, qui est l'adjoint au cimetière, je me suis entretenue avec lui il n'y a pas très longtemps, et je trouve que là aussi les diasporas doivent s'organiser, parce qu'il faut savoir qu'à Marseille, il n'y a plus de place dans les carrés musulmans. Et que donc, même si c'est payant ici, il y a des jeunes qui ne connaissent pas leur pays d'origine ou qui n'ont plus de famille dans le pays d'origine, qui veulent enterrer leurs parents ou leurs enfants à leur côté. Et aujourd'hui, malheureusement, nous arrivons au bout. Et le maire de Marseille actuel et le maire précédent n'ont pas anticipé, alors qu'il y a près de plus de 300 000 enfants d'immigration postcoloniale qui font des enfants, qui se marient, qui se mélangent, etc. Et aujourd'hui, si nous voulions enterrer nos morts en France dans un carré musulman, il n'y a quasiment plus de place. Et pour ça aussi, nous devons nous organiser.
Le décès de Dr Koné.
Je peux en rajouter, vous parlez d'ici de la France. Moi, je te parle même au Sénégal, chez moi.
Oui.
Même au Sénégal, chez moi, il n'y a plus de place.
C'est terrible.
Le cimetière de Yoff est presque plein. Donc, à Pikine, c'est super plein. Donc, même chez nous, là-bas en Afrique, les élus, les responsables ne se soucient pas des cimetières. Tous les terrains, ils les donnent pour des habitations. Ils vendent les terrains, mais ils ne prévoient jamais des lieux où les gens, on doit les...
Pour reposer tranquillement.
Voilà. Donc, même le cimetière de Dakar Yoff, dont je te parle, est presque, dans 5 ans, ça va être full, il n'y aura plus de place. Est-ce qu'on a prévu un autre cimetière? À Pikine, c'est plein depuis des années. Donc, le problème des cimetières ne se limite pas uniquement en qu'ici, France, oui. Mais c'est quelque chose qui nous colle dans la peau, nous les musulmans. Mmh. On gère mal nos morts.
Alors, Béran, je veux que tu rebondis, puisque le temps nous...
Pour rebondir très rapidement, j'ai mis à Moussa pour régler le problème, il ne faut plus mourir.
Et le goût de la mort, tout le monde y passera. Mais pour rebondir, dis-moi, mon cher, toi qui es sportif,
pour conclure,
parle-nous un peu. Est-ce que les Sénégalais, l'équipe nationale, les Lions de la Teranga, est-ce qu'ils sont prêts vraiment pour ce parcours? Cette aventure.
Je pense qu'on va créer, on va faire une émission spéciale.
C'est ça.
Je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler un peu des associations dont le consulat a fait appel pour faire un recensement.
Je suis d'accord.
Des associations.
Tout à fait.
Et je pense que tout le travail sera fait à ce niveau-là, savoir combien d'associations existent en France au niveau de Marseille pour le Sénégal.
Tout à fait. Et ça lui permet de bien travailler.
Avec cette base-là, on pourra travailler et on pourra effectivement aller vers ce qu'il demande la mosquée Bilal pour essayer de mettre de la clarté dans tout ça. Parce que quand il y a un gâteau qui est là, il faut le partager.
Tout à fait.
Et quand je parle de gâteau, je veux dire chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. On est juste des passagers, des passants, qu'on puisse laisser une belle place à nos futurs. Voilà.
En tout cas,
donc pour ça, je pense qu'il faut une transparence.
Merci.
Il faut une clarté dans tout ce qui est gestion et patrimoine que nous devons laisser pour nos petits.
Je reviens
toujours pour encore tirer le drapeau vers le haut pour Mme Carotter, pour dire que ce qu'elle vient de donner comme discours, ça concerne toute l'Afrique. Elle l'a vraiment galvaudé, comme je peux dire, pour que nous ayons les oreilles ouvertes et les yeux ouverts pour comprendre et entendre ce qu'elle vient de dire.
En tout cas, c'est une mère qui pleure qui parle.
Merci.
Et merci, Biran. Et puis, je dis, donc, on va préparer ça et cette émission avec ton concours, avec d'autres. Et pour recenser d'abord les associations, que moi, je connais tous les statuts, mais malheureusement, comme je te l'ai dit, ils sont tous éteints. Parce qu'une association sans bilan, et c'est une entreprise qui meurt. Pendant, après. N'attendons pas le mois de Ramadan pour demander. Astaghfirullah, inna Allah ghafururrahim. Abu Jibila mina shaitan rajim. Elle ne suit. Le plus grand puissant, c'est Allah. Mais Satan n'est pas petit. Mais qui a créé Satan?
Mais vous savez, Allah
est... Il paraît qu'il est né en Europe, mais on ne sait pas quelle date.
Mais Allah, il est en chacun d'entre nous. C'est important.
Ben, je ne sais pas.
Allah,
il est
en
notre France, quand même,
on
le protège, notre France.
Et il ne faut pas attendre le Ramadan pour faire des bonnes œuvres et
très
être
bien.
Solidaire. Moi,
très
c'est
bien.
Le Ramadan, c'est tous les jours, c'est la manière de vivre tous les jours, alhamdoulilah.
J'en profite pour dire, tous les mois de Ramadan, j'offre des repas aux sans-abri.
Mashallah.
Tous les enfants
qui
traînent vers la gare, vers la
porte d'Aix. La gare Saint-Charles, la porte d'Aix et d'autres lieux.
Des fois, c'est la femme de Mamadou, ma femme et une équipe qui font la cuisine et on distribue ça. Cette année aussi, on le fera et on demandera à vous tous, tu vois, chacun ce que tu peux apporter pour nous aider.
De se rapprocher à vous.
À faire un beau geste. Allah, il a dit, donner à manger est plus important que construire une mosquée.
Je suis tout à fait d'accord.
Donc, pendant le mois de Ramadan et que nous, nous sommes là chez nous, le ventre plein et la plupart du temps, le frigo est plein. On ne fait que jeter de la nourriture.
Un gaspillage.
Beaucoup de gaspillage. Pensons aux autres. Un petit 10 euros, un petit 20 euros, et tu vois, un sac de riz, tu vois, une cuisse de mouton ou quelque chose comme ça, une caisse de poulet, et c'est
voilà.
Ça.
Voilà, en tout cas, c'est la conclusion. C'est la solidarité,
bravo,
comme dit Kauter.
Bravo, bravo, mais... Si on a la possibilité, bravo à toi, bravo à tous ceux qui ne donnent pas dans le Ramadan, mais il faut qu'ils mangent toute l'année. Donc il y a une association qui est présidée par Mariam, qui fait ça toute l'année à la gare Saint-Charles, qui donne à manger, voilà. Donc si vous pouvez la soutenir aussi à elle et à d'autres, moi je le fais avec
mon petit repas à
moi.
Le goût de l'autre.
Si on peut aider tous les jours, n'ayons pas peur de ces gens qui sont différents et qui sont dans la précarité à l'instant T. Allons vers eux, tendons-leur la main, créons des ponts, pas des murs.
Je peux ajouter quelque chose ?
Bien sûr.
J'ai géré la mosquée Bilal. J'avais lancé une opération. Tout le mois de Ramadan, il y avait une famille qui prenait en charge la nourriture. Et les gens s'inscrivaient que tel jour, donc pendant tout le mois de Ramadan, il faut qu'on le renouvelle, que chaque famille
s'engage.
Un bol.
Oui.
Tu vois, donc chaque famille s'engage tel jour, j'amène. Donc ça aussi, c'est des idées qu'on avait mises en place. Il faut les renouveler. Que les familles qui sont là, qui veulent faire du bon geste, qui s'inscrivent.
Doivent faire du bon geste. Chaque musulman doit charité envers celui qui est plus précaire que lui, ne l'oublions pas. C'est pas que de la volonté, c'est un devoir dans notre religion et un devoir en tant qu'humain.
Radio Galère est là pour vous rappeler, c'est une radio communautaire, on est là pour vous, pour vos services, on discute, on débatte. On met le doigt là où ça fait mal. Il faut qu'on se dise la vérité.
Tout à fait.
C'est ça, on est là. Et des fois, ça plaise. Des fois, ça ne plaise pas. Mais c'est ainsi que va la vie.
Alors,
la vie, c'est la contradiction. On ne peut pas tous être.
Alors, Kauter, satisfait ou remboursé?
Moi, je suis toujours satisfaite de mes interventions chez vous, qu'elles soient en direct ou par visio. Et en tout cas, je suis très heureuse de t'avoir croisé hier. Je suis très heureuse que Maha nous ait appelé. Je suis très heureuse d'avoir
eu avec vous.
Et on continue.
Merci beaucoup.
On continue.
Merci.
Allez, comme on dit, Mamadou Ndiaye, toujours en action. On termine par la musique. Et moi, je vais aller à la plaine visiter mes amis qui sont là-bas et rentrer chez moi. C'est un devoir oblige. On est là pour vous. On vous sert. Et pendant que vous êtes chez vous, calfeutrez au chaud. Nous, on est là sur le terrain. Et il faut nous respecter. Il faut nous encourager. On ne demande que ça. Du respect.
Picky. Not long story, uncle. It's a story, y'all.